Les gens viennent dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
Bats-toi, merde, Rocky, bats-toi!
Tu n'es absolument pas malade.
Ça me va droit au cœur, mais tu es bien placé pour savoir que, au contraire, je suis un grand malade.
Grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format qui est Waiting Room. Bonjour Val.
Nouveau podcast.
Nouveau podcast, oui, nouveau podcast, c'est vrai. C'est vrai. Alors on va tout vous expliquer, hein. Qu'est-ce que c'est Waiting Room, tout ça, on va prendre le temps. Mais déjà, je vais dire bonjour à mon acolyte, à mon binôme, à ma deuxième partie, je sais pas comment on peut dire. Enfin, aide-moi,
oui,
oui. Je me laisse pas m'embourber dans mon truc. Salut Val.
Binôme, hein.
Ouais, binôme, c'est bien.
T'as besoin d'aller plus loin.
C'est ça. Salut Val.
Salut, salut.
Comment ça va ?
Eh ben écoute, ça va très bien. Assez content de commencer. On est début 2023.
Bonne année, déjà.
Bonne année, oui, c'est vrai, déjà.
On est encore dans les vœux, normalement. C'est l'usage, bonne année.
Normalement,
bonne
santé, oui.
Plein de podcasts, tout ça, quoi. Commencer.
Très heureux d'être là.
Et oui.
Ce nouveau podcast, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Mais
qu'est-ce qu'ils sont
en train de faire ?
Qu'est-ce qu'ils font ? Alors normalement, vous devrez, c'est sur le même flux que l'ancien format qu'on avait fait, qui était donc y a-t-il un top tiers dans la liste ? On n'a pas complètement supprimé ce format-là. Alors pour tout vous dire, on met un peu de contexte, si tu veux bien Val, pour expliquer aux auditeurs. À la base, au tout début de la genèse, on avait cette réflexion avec Val de faire du podcast, et on s'est dit, ah, est-ce qu'on ferait pas un peu de pop culture, machin, tout ça. Ça avait rien donné parce qu'on n'avait pas d'idée très claire, et puis on n'était pas encore hyper rodé à l'exercice podcast. Donc c'est de là qu'est né Y a-t-il un pilote dans le manga, YPDLM. Et suite à ça, une année est passée, et un jour où je me suis retrouvé confiné à l'hôtel, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on s'amuserait pas à faire des tier listes pour avoir un prétexte de parler pop culture ? Et ben, bon, on a fait un épisode, et puis on n'a rien refait derrière, en fait, quoi. C'était ça le problème.
Non. Après, on avait augmenté la cadence sur YPDLM aussi, donc...
C'est ça, puis on a fait pas mal de collabs chez les copains aussi, donc ce qui fait qu'on n'a pas pris le temps de le faire. Et on va se le dire, le côté top tier, c'est sympa, mais c'est assez limitant, parce qu'en fait, bon, on ne peut pas trop parler vraiment de pop culture. Donc, ce qu'on peut vous dire déjà, c'est que ce format-là, bah, on va l'intégrer en fait à ce nouveau podcast qui est Waiting Room.
Exactement.
Ça sera un format.
On garde YTTDL dans le format de Waiting Room, parce que bah, quand même, c'est cool de faire des tier lists. On en fera peut-être d'autres. On avait envie d'en faire d'autres. On vous avait parlé de Rocky. Il y a plein de sujets à tier list et l'exercice est cool et sympa pour en discuter.
Mais ça sera occasionnel. Ça sera occasionnel dans le principe. On gardera ce format-là, mais on ne veut pas se limiter. Et on a quand même une grosse envie. Alors, on s'éclate à faire Y a-t-il un pilote dans le manga ? Ça ne s'arrête pas. On continue, on va essayer de continuer le même rythme parce qu'on kiffe toujours autant les mangas. Mais on avait un petit manque parce que souvent on se dit putain, ça serait cool quand même si on essayait de parler un peu de plus de pop culture. Bah, toi, t'es. En ce moment, tu es dans une vague un peu gamer. Moi, je joue un petit peu, mais j'ai baissé le rythme. Mais j'ai quand même quelques jeux dont j'ai envie de parler. On regarde beaucoup de films, on regarde beaucoup de séries télé. Et donc, bah, le concept, c'est quoi ? C'est que, alors, on s'est donné un rythme de, allez, une fois par mois, peut-être une fois tous les deux mois. Ça va être très irrégulier. Hein. Ça va être vraiment selon les envies, selon la motivation du moment, et puis surtout le temps. Parce que, voilà, on n'a pas non plus un agenda... illimité, il faut qu'on fasse aussi avec ce qu'on peut. Et le principe, ouais. Ça va être quoi ? Bah, ça va être chaque mois, chaque tous les deux mois, on va ramener chacun un sujet dont on a envie de parler, qu'on va se communiquer avant, pour que l'un et l'autre puissent regarder ou au moins tester un peu le sujet dont son acolyte va vouloir parler. Et puis l'idée, bah, ça va être de parler un petit peu de ça, de faire une petite discussion à la cool tous les deux, sans forcément trop de structure, mais de donner un peu notre avis. Ça peut être en bien, ça peut être en moins bien, on peut aussi un peu cracher un peu plus notre haine de quelque chose qu'on a détesté. Là-dessus, vraiment, ça va être, c'est vraiment l'envie du moment qui fait qu'on aura envie d'en parler d'un sujet. Alors, on peut avoir un sujet différent, mais on peut aussi avoir un sujet qui fait consensus, parce que c'est un trop gros morceau dans l'actualité pour en parler. Bah, là, vous le voyez dans le titre.
Et qu'on a tous les deux envie d'en parler, donc...
C'est ça.
Ayons cette discussion.
C'est ça. Et là, le gros sujet du moment, bah, vous l'avez vu dans le titre, c'est Avatar. On va vous parler d'Avatar, parce qu'on a vu tous les deux le deuxième morceau que nous propose Monsieur James Cameron.
James Cameron.
Donc voilà, ça va être très très cool. Et le titre, pourquoi Waiting Room ? C'est une bonne question, n'est-ce pas ?
Je l'explique.
Allez, vas-y, explique-le.
Alors, pourquoi Waiting Room ? Donc, Seb a expliqué qu'initialement, on voulait parler un peu de tout. En fait, l'idée du podcast, on en avait parlé dans un des épisodes de YPDLM, mais on va le rappeler ici. L'idée de qu'on fasse du podcast tous les deux, c'est qu'on passait pas mal de temps, fut un temps, à jouer sur nos Xbox One respectives.
Fort, fort lointain.
à beaucoup de jeux, tels que Star Wars Battlefront, par exemple.
Ouais.
Pour ne citer que lui. Street of Rage 4, voilà. Et en fait, on passait beaucoup de temps à parler de tout et de rien, d'actu, de ciné, de films, de séries, de jeux. Vraiment, en fait, on parlait vraiment de tout sujet un peu pop culture. Et c'est de là qu'est venue l'idée à Seb, ah putain, mais il faut qu'on s'enregistre. Voilà, comment est née notre envie
de faire du podcast.
Ouais. Et donc, en voulant retravailler anciennement Y a-t-il un top tier dans la liste, et en voulant passer sur un podcast un peu plus généraliste, entre guillemets, on s'est dit, pour le titre, il faudrait qu'on s'inspire de la genèse de notre union podcastique.
Et si des heures passées sur le live Xbox.
Exactement. Et donc, on s'est un peu inspiré de, lobby, salle d'attente, parce qu'en fait, on passait des heures dans les loading screens ou dans les salles d'attente en attendant des parties en multijoueur à parler. Parfois même sans lancer de recherche de matchmaking ou de jeu, quoi, entre guillemets, juste on parlait. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on l'appellerait pas Waiting Room ? Puisque voilà, le concept étant qu'on est virtuellement tous les deux en train d'attendre une partie en jeu ou un temps de chargement et on déblatère, on discute, voilà, et c'est... Et c'est l'occasion de débattre, parler, discuter de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas.
D'être d'accord, pas d'accord, de se mettre sur la tronche.
Ouais, exactement. Exactement. Voilà. J'ai pas trop mal résumé.
Ah non, mais t'as parfaitement résumé la pensée du podcast. Alors, c'est vraiment un truc très chill, hein, on va se le dire. Hein, c'est sans prise de tête. Oui. C'est vraiment qu'on en discute tous les deux, qu'on se fasse un peu plaisir à parler de choses qui nous tiennent à cœur. On ferme pas la porte.
Vous avez l'habitude. Hein.
Ouais. On ferme pas la porte à les inviter. Quand je dis les inviter.
Non. Voilà. Au contraire, ça pourra être cool.
Donc là-dessus, les gens qui souhaitent venir se joindre à nous pour apporter aussi leur pierre à l'édifice et éventuellement un sujet dont ils ont envie de parler avec nous et de soumettre à débat, pourquoi pas. Voilà. Mais l'idée, c'est très simple et c'est surtout vous transmettre un peu notre humeur du moment sur un sujet divers et varié là-dessus. Donc pour ceux qui étaient déjà, entre guillemets, parce qu'on a eu un petit peu d'écoute quand même, alors c'est pas énorme, hein, mais on a eu une petite centaine d'écoutes sur le premier épisode de YTDL, ça sera sur le même flux. Donc normalement, tous ceux qui sont déjà abonnés à ce flux-là, ils vont recevoir le nouvel épisode sur ce nouveau flux. Pour les autres, y a aussi les réseaux sociaux qui vont être le même @ des réseaux sociaux, sauf qu'on va modifier le nom. Et puis, de toute façon, on vous remettra tous les liens dans la description de l'épisode. Et puis, on partagera de toute façon par nos comptes le lien de ce nouveau concept qu'on espère qu'il vous plaira, en tout cas.
Totalement, ouais.
Et Val a toujours son chat, parce que c'est pas parce que c'est un nouveau format qu'il n'a plus de chat. Normalement, si vous entendez un bruit de fond, c'est qu'il y a toujours le chat. Nouvelle année, voilà. Toujours un chat qui fait autant de conneries.
C'est ça. Bon, là, elle joue avec une pièce, donc voilà.
C'est ça. Est-ce qu'on se lancerait pas dans le vif du sujet ? On va essayer de faire de pas trop
Let's go.
Dériver.
Let's go, c'est, on se teste, hein. Il y a des chances que peut-être que ça évolue dans le futur, avec ce premier épisode, voilà. Mais comme pour tout, il y a un début, donc voilà.
Mais là, on va se faire plaisir un petit peu aussi, parce qu'en montage, on va pouvoir vous glisser des bouts de bande-annonce, un peu de musique, parce que forcément, si on parle jeux vidéo, si on parle de tout, il y aura moyen de se faire un peu plaisir en montage et de vous apporter un peu de trucs un peu sympas au niveau auditif. Donc aujourd'hui, on vous parle de quoi ? On vous parle de la nouveauté de James Cameron qui nous a fait penser de pendant quand même pas mal d'années, on va se le dire. C'est Avatar 2, exactement. Et bien, on est parti, bande annonce.
Allez.
C'est parti.
Tu dois penser que je suis folle.
Il va sortir de là-bas, derrière les rochers.
Mais je sens sa présence. J'entends battre son cœur. Elle est là, tout près.
Et comment sont les battements de son cœur ?
Puissant.
Alors, Avatar 2, donc on l'a vu tous les deux récemment, c'est tout frais. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu donc en toute fin d'année, là, juste avant le fin décembre, j'ai dû le voir. J'ai profité d'une disponibilité de séance. Moi, j'avais pas trop de soucis pour le trouver. Toi, je sais que ça t'a un peu compliqué.
Ouais, moi, ça a été la galère. Après, moi, je voulais le voir dans des conditions optimales, c'est-à-dire bien placé en Dolby Cinema ou IMAX.
Ouais.
Et dans ma région à Toulouse, ça a été très compliqué de trouver des places. Moi, je cherche depuis la sortie.
Tu l'as vu en VO aussi, toi, du coup, aussi.
Et je l'ai vu je l'ai vu en VO, ouais, exactement.
Encore plus dur.
VO Dolby, et je l'ai vu là début d'année, le 2 janvier, quoi, voilà.
Et moi, je l'ai vu en 2D parce que la personne avec qui j'étais supportait pas le côté 3D parce que ça lui file des migraines. Et
c'est même bien
si,
dommage.
Ouais, même si je pense que le côté 3D, bah, c'est un film qui a été fait pour la 3D et qui a été construit autour de ça. Bon, je l'ai vu en 2D, l'expérience était quand même assez cool, et je l'ai vu en français, donc voilà, avec un doublage toujours aussi quali. On en retrouve les mêmes voix en fait qu'il y avait sur le premier épisode. En parlant du premier épisode, donc qui remonte à 2009, déjà, est-ce que déjà de base c'était un film qui t'avait plu ? Et je suis très curieux de voir un peu les conditions dans lesquelles tu l'as vu, enfin ce que t'en retiens du premier en tout cas.
Alors le premier, pour être très franc, moi c'est un de mes films préférés, Avatar. Malgré la faiblesse scénaristique, etc., moi c'est un film qui me fait vraiment vibrer. Le concept Avatar et tout ça, le message la réalisation de Cameron, c'est des trucs qui me mettent des frissons, alors que j'ai dû voir le premier une dizaine de fois, et j'ai tout le temps des frissons au même moment, sur les mêmes punchlines, sur les mêmes répliques. C'est un truc de dingue.
Pareil.
Eiwa, t'as entendu, voilà. Là, tu pouvais être sûr que j'ai des frissons de ouf. Je trouve ça.
Je te cache pas que mon frisson qui revient quand je le regarde si souvent, c'est le passage où il dompte le plus gros je sais plus comment il le nom
Turuk.
Le Turuk Maktou, tu sais, donc quand il le dompte et qu'il dit pour arriver à choper Turuk, il faut voler plus haut que Turuk, et cette scène là avec la musique, tout ça, enfin là, ça me file pas mal de frissons, ouais.
Non, je suis très fan du premier, je me mets régulièrement à une époque j'écoutais beaucoup ça, la bande originale. Jake First Flight en top 1 des musiques de la bande originale du premier, c'était incroyable. Et alors à l'époque je l'avais vu au cinéma, mais en Ariège, j'habitais en Ariège en 2009, et donc vous imaginez bien qu'il n'y avait pas de 3D, puisque à l'époque la 3D non, c'est un tout petit cinéma de petite ville, quoi, qui a pas évolué. Il y a qu'une salle, hein, donc c'est pour te dire, à l'époque en tout cas, je sais pas aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis pas allé. Et donc je l'avais vu en 2D classique, et j'avais passé un incroyable moment. Et par contre, je l'ai revu récemment en septembre, puisque tu sais, ils l'ont ressorti.
Ah oui, t'as eu cette chance là, toi, ok, ouais,
en remaster. Ah ouais, j'ai sauté direct dessus parce qu'en fait j'avais pas eu l'occasion de le voir en 3D et de prendre la claque, parce que tous mes copains au collège, parce qu'à cette époque-là, j'étais au collège, tous mes copains me disaient « Ah ouais, putain, la 3D, j'avais l'impression d'avoir les feuilles sur le visage. » Bon, ça abusait peut-être un petit peu, hein, mais c'est vrai que le premier était incroyable. Et le remaster là, qu'on a eu en septembre, la remise un peu à neuf, quoi, c'était trop bien. J'ai pris un pied monumental alors que je l'ai vu 10 fois. Au moins.
Après, de toute façon, ce film-là, c'est peut-être le seul film où il y a une... qui a été conçu vraiment pour la 3D. Tu vois, c'est vraiment, il a été pensé pour la 3D, il a été développé pour la 3D, ce qui fait que...
Il a démocratisé hein, la 3D, hein.
Ouais,
c'est
mais
Avatar qui a,
ce que je veux te dire
qui a
là,
amené c'est... la 3D dans tous les cinémas. Hein.
Ouais, mais ce que je veux te dire là, c'est que tout ce qui a été fait après n'a jamais réussi à rattraper ce que faisait Avatar, en termes de profondeur de champ, en termes de vraiment du... ce qui est conçu pour la 3D, parce qu'en fait, après, ce que tu regardes, ça a toujours été les films d'après, ça a toujours été des prétextes.
Je suis pas trop d'accord avec
pour
toi.
Pour vendre, bah, je vais au bout de mon raisonnement, tu vas comprendre, ça a été les prétextes pour vendre de la 3D. Moi, j'ai aucun film qui me vient en tête où la 3D était vraiment intéressante. C'était surtout des effets pratiques, ce qui fait que tu avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui te sautait à la gueule. Ouais, mais Interstellar n'a pas été développé pour la 3D.
Ouais, mais la 3D est sacrément quali. Hein. Ouais, pour l'avoir vu en IMAX, IMAX 3D, je peux te dire que
okay.
C'était pas un gadget. Hein.
Peut-être, mais c'est vrai que moi, celui-là, je l'avais vu en, je l'ai vu en 2D. Moi, celui-là, j'avais pas de séance en 3D qui était dispo par chez moi. Mais en tout cas, moi, je trouve que Avatar, et ça se confirme encore avec le deuxième opus, c'est vraiment quelque chose qui est prévu et qui est vu pour la 3D. Puisqu'après, on remarquera que ça s'est lentement effondré, la 3D. On l'a plus revu. C'est quelque chose qui était un peu mort dans l'œuf, puisque. Bah, clairement.
La malade.
Mais non, mais il n'y a plus rien qui se fait en 3D aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de télé 3D. Il n'y a plus rien qui se vend en 3D. Non, c'est la
Je ne suis pas d'accord. Sam, ouais. On ne va pas être d'accord.
C'est vrai
ouais, non, bah, ouais, bon. Je ne suis pas, un fervent défendeur de la 3D, etc. Par contre, moi, quand je vais au cinéma, généralement, c'est de la 3D parce que je regarde en IMAX et que l'IMAX, c'est pratiquement tout le temps de la 3D.
Bah alors, je vais te poser une question.
Et je peux te dire que, en vrai, c'est plus un gadget, quoi. Et si tu écoutes la plupart des gens qui parlent de ciné, les influenceurs entre guillemets, pas les influenceurs ciné, mais les gens qui s'y connaissent un petit peu en cinéma et tout, ils te disent déjà que Avatar, c'est Avatar qui a démocratisé la 3D,
ouais.
Telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et s'il y a autant de salles et autant de séances 3D aujourd'hui, c'est grâce à Avatar. Et parce que c'est plus un gadget, quoi.
Ouais, mais
c'est
ça se fait plus aujourd'hui.
Les gens sont habitués aux lunettes maintenant, mec. Hein.
Ouais, mais t'as plus de 3D maintenant. Depuis Avatar 2, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu de film en 3D ?
Mais t'es un malade ou quoi ? Tous les films sortent en 3D, Seb. Tous.
Avec les lunettes ?
Mais tous. Mais bien sûr.
Okay.
Mais oui.
Bah, c'est peut-être
je parle des énormes.
C'est peut-être mon côté provincial hein, qui fait que je suis pas dans une grande ville.
Je parle des énormes blockbusters. Alors forcément, les films un peu moins, déjà, qui ne nécessitent pas de 3D, genre les comédies françaises ou les trucs comme
non,
ça.
Non,
oui,
non, on parle bien des blockbusters. T'inquiète pas, on est là-dessus.
Je te parle des énormes blockbusters. Ouais. Il n'y en a pas un que je n'ai pas vu en 3D. Je pense notamment au blockbuster Marvel. Que je vais voir au ciné, enfin, j'allais voir régulièrement au ciné, je n'en ai pas vu un sans la 3D.
Ces 5 dernières années. Ah ouais, tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui a été plus mis autant en avant sur ces 5 dernières années. Tu vois, après, j'ai
les
pas de
Jurassic Park, okay. Interstellar.
Ah, mais ça, c'est vieux, ça a 10 ans déjà.
Bon, le dernier Jurassic World, il est.
Il n'est pas en 3D le dernier Jurassic World.
Mais bien sûr que si, mais t'es fou toi. Oh,
je suis fou.
Tu dis des bêtises, arrête.
C'est vrai?
Arrête.
Écoute,
il y a des séances 2D, mais il y a de la 3D, bien sûr, évidemment.
Ah ok.
Y a un vrai public pour ça. Hein.
Ok, mais quoi, toi pour moi c'était quelque chose qui était plus mis en avant. Bref, mais bon.
Oui, parce que t'es un boomer toi.
Non,
t'as encore 10 ans.
Je suis un provincial où j'ai un cinéma qui, depuis Avatar 2, n'avait pas remis en avant la 3D. Donc, on n'avait pas de séance 3D, on n'avait que de la séance 2D.
Je vais
plutôt en phase avec cette démarche-là de mon ciné, puisque je trouve que si c'est juste pour avoir des effets qui te sautent à la gueule et qui ne t'apportent rien, moi, je trouve qu'aujourd'hui, la 3D, j'ai un avis un peu négatif là-dessus, ça assombrit l'écran. Et tu n'as pas cette belle luminosité que tu peux avoir sur certains films. Et Avatar est le seul où, justement, bah, c'est conçu autour de ça. Donc, tu n'as pas cette sensation de côté sombre au niveau de l'image. Et Avatar 2, bon, je l'ai pas pu le voir en 3D, comme je disais, mais j'essaierai d'aller le voir en 3D, justement, parce que pour moi, c'est vraiment un film qui est conçu pour ça. Alors que toute la production qui a été faite après, ce n'était pour moi que des rajouts 3D pour faire 3D et pour vendre de la lunette. Bref, si tu veux bien, on ferme le débat là-dessus. Mais
maintenant, en fait, on peut faire juste. Je rajoute juste un petit truc. C'est que Avatar, c'est le premier film, je crois, tourné, ou un des premiers en tout cas, tourné, si je dis pas de bêtises, avec des caméras IMAX,
oui.
Qui à l'époque n'étaient pas du tout démocratisées, etc. Et les caméras IMAX, c'est deux caméras qui permettent de créer cet effet 3D de profondeur. C'est pas de la 3D qui te saute au visage, mais c'est plus de la 3 dimensions où ça rajoute de la profondeur de champ. C'est ce que
je dis, ouais. ça a été conçu pour ça. Ouais. Mais la plupart des films ne sont pas.
2009.
Ouais, mais la plupart des films après qu'on fait de la 3D.
On est en 2022, quasiment tous les films sont tournés avec ce type de caméra là.
Ok. Bon. Autant pour moi alors. Rapidement, moi.
Gravity. Mec, tu demanderas à des gens qui ont vu Gravity, moi je ne l'ai pas vu au ciné. Gravity, ça a été justement un des films avec une 3D qui sert vraiment beaucoup le propos du film.
Oui, je peux comprendre.
Et c'était en 3D. Et Gravity, ça date. C'est 2017, je crois, Gravity. Donc.
Dites-nous dans les commentaires éventuellement quand on vous postera l'épisode sur les réseaux sociaux ou sur le Discord ce que vous pensez éventuellement de la 3D, est-ce que vous êtes client de 3D ou pas client de 3D. Je suis très intéressé d'avoir votre avis. Moi je suis pas client perso, mais à part par quelques exceptions, toi plutôt client, mais voilà, bref,
moi je suis pas dérangé, j'ai pas de problème avec la 3D.
D'accord. Bon. Rapidement, en deux minutes, moi Avatar, c'est un énorme kiff à l'époque où c'est sorti. J'ai dû le voir deux fois au ciné, je l'ai vu une fois en 3D, une fois en 2D. Et je compte plus les fois où j'ai dû le voir en DVD et Blu-ray. Pour moi, c'est une grosse claque et je te rejoins sur le fait de frissons sur les mêmes passages, hein, parce que c'est la musique de James Horner, elle fait le taf. C'est vraiment ouf. Je trouve qu'il y a une ambiance. Alors oui. Je suis d'accord avec vous pour les deux trois du fond là, et que j'entends dire oui mais il n'y a pas de scénario tout ça. Oui, le scénario il est basique, mais en même temps les trois quarts des films à divertissement c'est des scénarios basiques, hein. Je veux dire, si vous prenez tous les gros blockbusters qui cartonnent, c'est pas des scénarios qui cherchent, qui sont très.
Puis James Cameron, ça n'a jamais été non plus le plus grand des scénaristes, hein.
Alors après, on peut avec les Terminators se dire qu'il y a un scénario qui est un peu plus travaillé avec ces histoires de temporalité et compagnie, mais là sur Avatar je pense que le but
Titanic et Abyss ça bon, après, c'est pas non plus les plus grands scénarios de tous les temps, hein. Titanic c'est Roméo et Juliette sur un bateau, hein, mec, hein.
C'est ça, mais après il y a le côté un peu historique qui fait qu'il y a adaptation potentielle d'un fait réel, un peu romancé, mais oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Avatar déjà de base, la copie n'était pas de nous en mettre plein la vue en termes d'écriture. Il veut nous en mettre plein la vue au niveau production design, au niveau esthétique du film. Et ça, on en a pour notre argent. Oui, c'est les cowboys, oui, c'est les cowboys et les Indiens. Oui, c'est Pocahontas. Et grosso modo, c'est très basique. Enfin, j'entendais souvent la réaction qui revenait. Ça tient sur un timbre-poste. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en branle en fait ? Moi, je viens voir un film pour prendre du plaisir. Je suis pas là pour essayer de faire une thèse sur. Enfin, c'est du ressenti. Vous verrez que, encore une fois, c'est que du ressenti. Moi, j'avais aimé Avatar à l'époque parce que la proposition qui me donnait m'a plu. J'ai kiffé mon moment. J'ai adoré les scènes d'action que j'ai trouvées épiques. Et j'ai tout aimé. Enfin, franchement, à le revoir.
Mais justement, en vrai, cool. La simplicité, c'est cool aussi.
Bah ouais. On n'a pas toujours besoin d'avoir un truc qui.
Ouais, voilà, un scénario. Pas besoin d'avoir de regarder un Inception à chaque fois qu'on mate un film, quoi.
C'est ça. Et on l'a vu. Et on a vu d'ailleurs l'écueil de faire ça, c'est que d'ailleurs avec son dernier film là, Tenet, parce que tu parles de.
Oui.
Il a justement, ça a été compliqué, quoi. Moi, je l'ai pas vu. J'ose pas trop le voir. Parce que.
Ah bon ?
J'ai eu pas mal de retours où il disait qu'il a été un peu trop loin dans le côté un peu tiré par les cheveux, quoi.
Moi, après, je suis très client, mais bon, moi, je suis très bon public aussi, hein. J'aime autant me péter le cerveau sur Internet que poser mon cerveau devant Avatar, quoi, hein, vraiment.
Ouais. Eh bien, écoute, si tu veux bien, on passe aux deux. On va donner notre avis. Alors, comment on va découper la chose ? On va vous donner notre avis général, sans spoil. Et puis après, on va vous mettre un petit warning. On va vous le dire. On va spoiler, puisqu'on va justement rentrer un peu plus dans le détail de ce qui nous a plu, pas plu. Et pour ça, on aura besoin d'étayer en donnant deux, trois exemples de scènes et compagnie. Et ça, pour le coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu, au moment du warning, coupez le podcast, allez voir le film et revenez nous voir. Mais bon, vu le carton que ça fait en termes d'entrée, il y a de fortes chances que si vous nous écoutez, vous l'ayez vu, je pense. Hein. À mon avis, on est plus sur les gens.
J'espère.
Les gens qui ne l'ont pas vu, à mon avis, seront plutôt minoritaires. Donc, on est toujours au niveau du réalisation, donc c'est toujours James Cameron. On a changé de compositeur, c'est plus James Horner, on est passé avec Simon Franglen, je ne connais pas, honnêtement.
Il a repris les travaux de James Horner.
Ouais, ouais. En fait, on n'est pas du tout, ce que j'allais dire, on n'est pas du tout déphasé par rapport au premier. Moi, je trouve qu'on retrouve vraiment toute l'ambiance du premier volet. Au niveau acteur, on reprend les mêmes et on recommence, hein, avec quelques petites nouveautés. On retrouve Sam Worthington, qui, mis à part Avatar, il a fait quoi entre Avatar 1 et Avatar 2? Il a fait un Terminator, et puis c'est tout.
Si, et il a fait l'attaque des Titans. Bah si, je crois que c'est si, comme ça. Clash of Titans.
Ouais, c'est ça. Mais ça a été le choc des Titans. Mais pour reprendre.
Le choc des Titans, voilà.
Mais entre ça, il a rien fait de très marquant en termes de blockbuster, tu vois. Enfin, c'est assez pauvre, hein, sa carrière à Sam Worthington. Il a fait quelques. Je sais que moi j'ai vu de lui sur Netflix, j'avais vu Dos au mur, mais c'est pareil, ça remonte il y a pratiquement 10 ans. Et...
Je sais pas, moi je trouve que c'est pas un mauvais acteur.
Alors non, c'est pas ce que je dis, hein, mais c'est pas un mauvais acteur, mais il a eu une carrière. Alors si on compare à Zoé Saldana, qui a eu une carrière un peu plus qui a une grosse carrière pour le coup, tu vois, je regarde un peu sa filmo, j'ai vu La Fracture avec lui aussi, qui est très bien, enfin qui est pas mal, c'est pas un excellent film, mais c'est un bon film, quoi. Mais ça a été assez pauvre, faut se le dire, hein. Je pense qu'il était content que Cameron l'appelle pour tourner la suite d'Avatar 2, qui va peut-être lui permettre de renflouer les caisses, quoi.
Oui, bah de toute façon, il a signé pour en tout 5 films avec le premier, donc.
Ouais, c'est ça. Il y a 3, 4, non, 5, c'est ça, 2, 3. Je ne sais plus ce qui est prévu exactement.
Il y en a 4 qui sont prévus après le 1. Donc, du coup, il y a Avatar 2, 3 et 4.
C'est ça.
Et 5, je crois.
Ouais. C'est exactement ça. Je crois que c'est une trilogie qui est prévue derrière. C'est une trilogie, hein, qu'ils ont prévue, je crois, il me semble. Plutôt.
Ah, c'est vrai qu'il a joué dans Tu ne tueras point, Sam Worthington. Ouais. Ouais. Bon, il n'a pas non plus un énorme rôle, mais Tu ne tueras point, sacré film.
Ouais. On retrouve Zoé Saldana, que moi, j'aime beaucoup cette actrice.
Elle
apporte vraiment quelque chose. Même si on y reviendra, elle n'est pas super mise en valeur dans ce film. Pour moi, c'est une des faiblesses du film, mais on en reparlera. Je trouve que l'accent dans ce volet-là, on en discutera, n'est pas trop mis sur les parents. Donc, même Sam Worthington et Zoé Saldana, je trouve qu'ils n'apportent pas quelque chose de très constructif. Heureusement qu'il y a les enfants qui apportent un peu de fraîcheur. Mais ça, on se le garde pour après. On va en parler, justement. Zoé Saldana, vous la connaissez tous parce que c'est Gamora. Hein,
Colombiana,
ouais. Mais c'est surtout Gamora dans chez les Marvel. Hein. Et Colombiana, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Vraiment, j'ai trouvé ça très cool.
C'est le film qui l'a révélé.
Ok, c'était avant Avatar, Colombiana?
Je crois.
C'était pas plutôt après?
Non, si je dis pas de bêtises.
Ah si, 2011,
elle a été
mec.
Révélée.
2011.
Ah ouais.
Ah ouais, c'est 2011, c'est après Avatar.
D'accord. C'est après Avatar.
Mais après, on l'a vu dans. Elle a fait énormément de franchises, hein. Donc, elle a fait Les Gardiens de la Galaxie, elle était dans les Avengers, elle a fait les Star Trek. Elle était dans les Star Trek. Elle a en fait.
Oui,
en même
oui,
temps,
c'est vrai,
en même
c'est
temps
vrai.
Que le Avatar.
C'est la meuf de Spock.
Et c'est ça, c'est en même temps qu'Avatar, il y avait le Star Trek de Abrams qui sortait la même année. Et moi, je l'avais trouvé déjà très bien dans cette trilogie-là, parce qu'il n'y en a que 3 hein, pour l'instant. J'ai moins aimé le dernier. J'ai bien aimé le deuxième avec Doctor Strange. J'ai oublié le nom de l'acteur. Tu vas m'aider. Celui qui...
Benedict.
Ouais, Benedict Cumberbatch. Il joue le méchant, en fait, dans le Star Trek 2, pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Oui.
Spoil.
Oui, oui.
mais ouais, Zoé Saldana... Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa carrière et j'aime beaucoup cette actrice.
Ah ouais, en fait, c'est vrai qu'en 2009, elle a fait une sacrée année puisqu'elle a le reboot de Star Trek et Avatar, quoi. Donc,
exactement, c'est assez fou. On retrouve Sigourney Weaver. Est-ce que tu aimes Sigourney Weaver? Est-ce qu'on a besoin de présenter Sigourney Weaver? Je pense pas.
Non, je pense pas qu'on ait besoin de présenter Sigourney Weaver.
Moi, j'adore cette actrice. Enfin, c'est vraiment l'incarnation de la science-fiction. Hein. Enfin, c'est pour moi, oui. Enfin, c'est Alien. Enfin voilà, j'en passe. Hein. C'est
mais du coup,
actrice,
parce que moi, j'ai des questions. J'ai une question là-dessus, mais
vas-y.
C'est peut-être non, mais c'est peut-être spoil. Du coup, je sais pas si je peux la poser.
Sur son rôle, il est connu. Hein, tu peux le dire. Hein. C'est connu. Hein, c'est acté. Hein.
Ah oui, donc c'est elle qui. On est d'accord. C'est bien elle qui joue Kiri. Quoi.
C'est exactement ça, ouais.
Une des filles de Jack.
Une des filles de Jack, ouais. On va rappeler le. On va faire le synopsis. Une fois qu'on aura fait les acteurs, on va rapidement dire le propos du film. Parce que, grosso modo, c'est ce que vous trouvez dans les. Quand vous lisez la fiche du film. On retrouve Stephen Lang. Alors, on va garder pour l'instant un peu secret son rôle, parce que pour le coup, c'est un petit spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que moi, pour le coup, je ne savais pas du tout comment il intervenait. Enfin, pour, comment il venait. Est-ce que c'était un flashback? Est-ce que c'était un caméo? De quelle manière? Donc ça, on l'apprend assez vite dans le film, mais je ne sais même pas si c'est teasé dans le... Ça doit être, si c'est expliqué dans le synopsis.
Non, c'est pas, il y a pas dans le teaser ni dans le synopsis.
C'est ça.
Je savais pas.
Donc c'est un peu gardé.
Ils ont gardé la surprise.
Exactement. Et donc Stephen Lang, ben pareil, jolie petite carrière. Il a fait des, tu sais, il a fait un film sur Netflix là où il joue un malentendant ou peut-être un muet. Il est Don't Breathe. Je sais pas si tu l'as vu ce film.
Ah oui, Don't Breathe. Ouais.
Qu'on trouve notamment sur comment ça s'appelle sur Netflix. Je crois que c'est toujours sur Netflix d'ailleurs. Mais pareil, c'est quelqu'un qui a une jolie petite carrière aussi. Et après, pareil, on reparlera un petit peu de son rôle dans le film, de ce que t'en as pensé. Moi, je suis un petit peu partagé, mais bon, bref. Et on termine parce que ça sera aussi un gros clin d'œil qu'on a dans le film. Il y a Kate Winslet aussi dans le film. Clin d'œil.
Ouais. Voilà. Kate Winslet et Cliff Curtis aussi. On n'en parle pas, mais.
Eh ben oui.
Parce que on le connaît. Enfin, de nom comme ça, ça va peut-être pas vous parler, mais c'est il joue dans. Il a joué dans Les Éternels de Marvel, par exemple. Cliff Curtis et c'est. C'est un peu l'acteur typé indien
ouais, c'est ça.
D'Hollywood, quoi. Je crois qu'il a joué aussi dans Fear the Walking Dead dans la saison 1, c'est le père de famille. Voilà.
Ouais, c'est un acteur montant, c'est un acteur qui a pris une pour son rôle justement dans Les Éternels, qui a pris une grosse masse musculaire. Justement, il montrait les photos de sa transformation physique. C'était plutôt...
Attends, je le vois pas dans Les Éternels, là. Je vois pas Les Éternels dans son... Alors peut-être que je me trompe.
Tu confonds peut-être, non? On confond peut-être pas.
Alors peut-être qu'on confond. Ah oui, peut-être que je confonds. Alors peut-être que je dis des bêtises. C'est possible. Mais en fait, j'ai déjà vu cet acteur. Mais je savais
non,
pas que
non,
c'était lui qui jouait. Donc il joue.
Tu confonds avec un
ouais,
autre.
Ouais, je confonds.
Ouais, tu confonds avec.
Oui, je confonds avec un autre. Pardon. Oui. Ah oui, non, lui, il est néo-zélandais. Oh, pardon. Oh là là, la bavure.
la bavure.
La bavure de Valou. Non, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait en eau trouble?
Il a fait en eau trouble, ouais. En eau trouble, tu sais, c'est The Meg avec comment ça s'appelle, l'espèce du gros requin là. Il joue un des scientifiques, mais il joue dans l'équipe dans Jason Statham et il est prévu dans.
Il a
joué
dans Colombiana aussi avec. Il a fait quand même quelques films et tout, mais c'est quand même des rôles secondaires à chaque fois.
Donc c'est.
Mais il est en fait il est connu. Je pense que si vous voyez sa tête, ça va vous parler.
Oui.
Vous l'avez déjà vu clairement.
Donc je confonds aussi parce que la transformation musculaire c'est pas lui, c'était le même parce que tu m'as induit en erreur. C'est le même acteur aussi. Qui justement est dans Les Éternels. Mais et bref.
Oui.
Il en fallait une, on l'a faite. Hein.
Ouais, désolé,
la
bavure.
On l'assume publiquement.
Pour une fois que c'est moi qui l'a fait, putain.
Ouais. Et moi, merde, je plonge dedans aussi. Hein, donc en vrai, on est deux hein, dans cette histoire.
Ah voilà, parce que l'acteur, c'est Kumail Nanjiani. Il se ressemble un petit peu,
ouais.
L'acteur dont on parle.
C'est vrai.
Il y a un petit air. Qui est d'origine pakistanaise. Voilà, désolé. Bref, pardon, on reprend le sujet.
Non, mais alors vas-y, est-ce que tu te sens de pitcher Avatar? Parce que
je peux essayer.
C'est plus frais pour
je
toi. Peux essayer. Ah, vas-y.
Donc, en gros, Avatar 2 se situe donc après le premier volet. On a au tout début du film, hein, c'est pas spoilé, mais en gros, on a une scène d'introduction qui montre le temps passé auprès de Jack et Neytiri sur Pandora. Donc on les voit en fait créer une famille, hein, tout simplement, à vivre leur vie auprès des Omaticaya, le peuple de Neytiri, avoir des enfants. On nous explique donc qu'ils ont créé une famille et que Jack est donc le chef, et donc Olowektan, le chef de la tribu Omaticaya. Sans trop spoiler, donc le scénario, les humains reviennent sur Pandora, puisqu'après avoir été bannis, l'armée, entre guillemets, mercenaire, a été bannie, en fait, à la fin du premier volet, et ils reviennent pour une raison X, que je vous laisserai découvrir dans le film, ils reviennent sur Pandora, et donc Jack et Neytiri vont devoir fuir, et se réfugier auprès d'une tribu qui vit loin dans Pandora, enfin plus loin que là où ils habitent, au bord de l'eau, la tribu des récifs, les maîtres Kaina, et donc on va voir Jake et Neytiri et leurs enfants, surtout leurs enfants, vivre là-bas et essayer de fuir à la menace humaine.
C'est ça.
Qui revient.
Alors, on peut dire qu'ils ont fait partie, enfin, ils ont réussi à vaincre, entre guillemets, le peuple oppresseur. Mais il faut voir aussi que pendant des années, ils ont quand même cohabité. Hein, parce que là, il y a une menace qui revient.
Oui, une partie des humains qui
est restée, qui a développé. Ils ont une base beaucoup plus importante dans ce volume-là. Ils ont presque même une ville établie qui s'est faite au fil des années. Et en fait, là, ce que tu expliques, c'est qu'il y a une nouvelle menace qui revient sur Terre, dont on va expliquer un peu plus tard dans la partie spoil, qui fait que ça va relancer l'intrigue et relancer tout le cheminement du 2.
C'est ça. Oui, voilà. En fait, la partie militaire des humains a été bannie et ceux qui étaient friendly avec le peuple Omaticaya, donc les chercheurs, par exemple Norman, un des chercheurs qu'on a dans le premier, qui est aussi là dans le deuxième, est resté avec son compagnon, avec son compatriote, pour mener les recherches et plein d'autres humains. Voilà. En fait, ceux qui n'étaient pas, qui étaient inoffensifs pour Pandora et pour les peuples de Pandora et qui cherchaient à vivre en harmonie, sont restés. Voilà.
C'est ça.
Et les autres reviennent. Et oui, they're back.
It's back. Bon, qu'est-ce que tu as pensé allez, avis à chaud, du coup, on va commencer par notre avis non spoil. Qu'est-ce que tu as pensé globalement donc, de Avatar, la voix de l'eau?
Moi, j'ai passé un très très bon moment. Bah, déjà, forcément, un peu d'attente à l'idée de revoir Avatar, de voir Avatar au ciné, déjà pour la première fois, entre guillemets, pour moi. Et puis surtout de découvrir, parce que moi, j'ai vraiment été matrixé par l'univers de Cameron. Enfin, à chaque fois, je suis bluffé parce que ça paraît tellement réaliste ce qu'il a imaginé. Enfin, moi, je me dis que Pandora, c'est à 4 années-lumière de la Terre. C'est pas si loin. Si, c'est énorme.
C'est énorme.
Je me dis, merde, ça existe, quoi. Le mec est vraiment très fort pour avoir pour créer cet environnement, ce lieu. Il y a beaucoup de cohérence et ça crée beaucoup de réalisme. Et donc, moi, je suis rentré dedans, quoi, clairement. Et donc, j'ai passé un super moment. Le film, il fait plus de 3h15. Et honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Les gens que je connais, certains qui sont pas trop fans des films trop longs et qui sont pas des énormes fans de cinéma ou quoi, ils m'ont dit qu'ils ont pas vu le temps passer non plus, qu'ils ont passé un très bon moment. Donc je pense que globalement, les gens sont assez contents. Et moi, je suis très content de l'avoir vu. Alors il a des défauts, il a ses faiblesses.
On va en parler.
Il a beaucoup de qualités aussi.
Oui.
Donc voilà. Mais moi, ça n'a pas gâché
mon
plaisir de visionnage, ouais.
Écoute, je te rejoins. Moi, j'ai passé un excellent moment. J'ai pas vu le temps passer. Je trouve que ce qu'on peut dire sans spoiler, c'est que visuellement, il est dingue. Il est dinguissime. La prouesse technique. Alors, je rappelle, hein, moi, je l'ai vu en 2D, mais déjà en 2D, l'image, elle est d'une beauté. Enfin, la CGI, elle est hyper bien intégrée. Enfin, on a l'impression.
Chez Fer, ça t'a pas posé problème?
Pas du tout. Non. Okay. Je trouve que l'intégration des effets spéciaux, c'est juste ma boule. Et tout est bien foutu. Les scènes sous l'eau, elles sont ouf. Et quand on sait comment ça a été fait, c'est encore plus ouf. J'aime ce nouveau lore. Tout ce bestiaire là qui est mis en avant est vraiment chouette. Tout ce qui est lié au peuple de l'eau, j'aime beaucoup. Les espèces de pseudo-baleines. Alors, j'ai pas encore retenu tous les noms parce que.
Les Tulkun.
Voilà, les Tulkun. J'aime beaucoup tout le lore autour de ça. J'aime beaucoup les relations qu'ils peuvent avoir avec le peuple de l'eau. C'est vraiment chouette. Visuellement, ouais, c'est assez dingue. Et c'est bravo Cameron pour ça parce que c'est vraiment une prouesse technique. Après, en petite faiblesse, je trouve que je peux dire en non-spoil, c'est que même si j'ai passé un bon moment, je trouve que le scénario est moins palpitant que le premier. Je trouve que, en fait, on avait dans le. En fait, déjà, juste à expliquer, c'est que Moi, j'ai adoré le premier, et honnêtement, le premier, pour moi, pouvait se suffire à lui-même. Je n'attendais pas forcément de suite. Donc déjà, quand je suis allé voir Avatar 2, j'avais zéro attente, zéro enjeu, donc j'y suis allé complètement neutre. À la différence, par exemple, si je peux prendre un exemple d'un parallèle, puisque j'en discutais avec un pote il n'y a pas longtemps, de Star Wars 8, j'avais beaucoup aimé le 7, et j'avais beaucoup d'attentes sur le 8 de ce qu'il pouvait m'apporter. Donc je suis ressorti de cette séance-là, bah, énervé, parce que j'avais beaucoup trop d'attentes. Avatar 2, j'en attendais rien. Donc si tu veux, quand j'ai vu le film, je l'ai pris comme il était, et j'ai passé un très très bon moment, même s'il y a quelques faiblesses, et je trouve que le scénario, si tu veux, on a moins l'effet de surprise que le premier. Donc, si tu veux, il y a quelques scènes, si tu veux, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai trouvé ça moins impactant que le premier. Toi, dans le premier, j'ai trouvé la scène quand il arrive à dompter, à apprendre bah, la maîtrise des espèces de machins volants. Là. J'ai plus les noms.
Zikran.
Voilà. Mais qui chope après le Turok. Bah, ça, pour le coup, c'est une scène anthologique que je me souviendrai à vie. Il y a quelques scènes un peu similaires dans le 2, avec un de ses fils. Je spoil pas, bah, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai trouvé ça moins impactant que le premier, parce que c'était un peu une redite, mais on interchange un peu les personnages, mais c'était cool. Il y a le climax dans le 1, que j'ai trouvé ouf, bah, le climax du 2 est sympa, est assez dingue, mais pareil...
C'est vrai qu'il est moins impactant que le premier.
Toutes les scènes d'action sont moins impactantes que le premier, ça reste un très bon spectacle, un très bon divertissement, mais il y a quelque chose, et ça on va en parler en rentrant vraiment dans le détail après, et il y a, on va se dire... Il y a quelques personnages qui m'ont un petit peu agacé. Le personnage de Stephen Lang, le personnage de Spider. Je trouvais que c'était un peu écrit à la truelle. mais ça reste, si tu veux, la prouesse technique et l'onirisme qu'apporte l'univers du Peuple de l'Eau prend le dessus en fait, sur les côtés négatifs, ce qui fait que dans la globalité, j'ai passé un très bon moment. Après, est-ce que le deuxième visionnage, parce qu'il y aura forcément un deuxième visionnage, est-ce que ça va être validé ou pas? J'aurais peut-être un avis plus mesuré, mais ça sera l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, ça vaut le coup et c'est peut-être le film à voir, mais ça c'est un peu une grosse ficelle que je veux dire. Il faut le voir au cinéma, juste pour le côté technique, ouais. Est-ce que peut apporter visuellement le film. Donc voilà.
Clairement.
Est-ce qu'on passerait pas maintenant à la partie spoil? On va rentrer un peu dans le détail du truc et puis dire un peu ce qui nous a plu, moins plu dans les différentes scènes. Warning. Attention, on va spoiler. Coupez le podcast maintenant si jamais vous n'avez pas vu le film. Et vas-y, écoute, je te laisse te lancer. Éventuellement, commencer peut-être par les choses qui t'ont le plus plu. Et puis après, on terminera par ce qui nous a moins plu, si tu veux. Ça te va? On se sent ça?
Ouais, allez, vas-y. Pas de problème. Alors, dans ce qui m'a le plus plu, bah forcément, le lore autour des Metkaina, la tribu de l'eau. J'ai beaucoup aimé... en fait, je trouve que c'est très intelligent ce qu'il a fait. Le fait que les Na'vi de la tribu des récifs aient une couleur de peau différente,
oui,
et une queue adaptée à leur milieu parce qu'ils nagent.
Ouais. Ça, c'est cool.
Etc. Beaucoup. Enfin, ça, j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant. Mais vraiment, ils ont des yeux un peu plus gros. En fait, il a mis en place des choses qui ne sont pas du tout expliquées dans le film, mais qui sont hyper cohérentes en termes, entre guillemets, biologiques.
Ouais, ouais, ouais. Il y a un côté très kawaii, je trouve, dans les personnages. Tu sais, ils font très manga. Pour le coup, ça fait un petit rappel à notre podcast.
Ouais, parce qu'ils ont des grands yeux, parce qu'ils ont besoin de... Ben, comme les poissons, ouais, en fait, hein, et tout ça, quoi. Je trouve ça très, très smart. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Les effets spéciaux.
Ouais.
Alors là,
toutes les scènes sur l'eau, elles sont dingues.
C'est un chef-d'œuvre d'effets spéciaux.
Ouais.
On va pas se le cacher. C'est-à-dire que tout semble réaliste, alors que rien, mais rien, n'est en effet réel. C'est un truc de fou quand même, ouais, de se dire que le film a été tourné sur des fonds verts ou bleus, entre guillemets. En tout cas, c'est bluffant. On a vraiment passé un step par rapport au premier film qui était déjà très réaliste. Mais alors là, ça alimente encore plus. En plus de la cohérence dans les décors, tout ça, le réalisme de l'image fait que vraiment ça apporte quelque chose où on y croit, quoi.
Ouais.
On se dit, le mec, il était sur Pandora et il a filmé ça en direct.
Ouais, ça fait un peu ça. Ça fait presque un peu documentaire. Ouais. Je te rejoins un peu là-dessus.
Ouais, ouais. Mais grave, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas été gêné par le HFR. Je trouvais que c'est une...
Alors, rappelle quand même pour certains auditeurs, parce qu'on a utilisé ce terme tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est HFR, le HFR?
Donc, c'est... HFR, c'est le sigle pour High Frame Rate. Et donc, en gros, un film, le cinéma, historiquement, c'est 24 images par seconde. Et depuis quelques temps, pas si longtemps que ça, mais le premier à l'avoir fait, c'est Peter Jackson sur Le Hobbit. Ils augmentent en fait le nombre d'images par seconde à l'écran, ce qui fait qu'en fait l'œil voit plus d'images, donc ça, l'image paraît plus fluide, parfois un peu moins réaliste en fait, bizarrement, quand on est habitué aux 24 images par seconde. Et donc dans Avatar, on a un variable high frame rate, un variable HFR, et donc ce qui veut dire que certains plans, en fait, en fonction du plan et de l'action, les frame rates vont varier, et on va passer de 24 à 48 selon les plans.
Ouais, après, ça offre
les plans où il y a le plus d'action.
C'est ça, ça offre un confort de visionnage. Ça offre en fait un confort de visionnage, notamment sur les travelling.
Mais tu sais que c'est pas tout le monde qui dit ça.
Alors, je sais ce que tu fais référence, mais notamment, je trouve que le HFR, ça apporte vachement de fluidité dans les travelling. Tu sais, quand il fait du travelling, qui balaye en fait toute une.
Oui.
Il y a moins cette impression un petit peu peut-être de. Ah, attention, on n'est pas au point de laguer, mais ça offre vraiment un confort de visionnage, de fluidité. Par contre, le revers de la médaille, c'est que le combo 3D, lunettes 3D et HFR, dans certaines scènes sous-marines, apparemment, il y a certaines personnes qui ont eu une sensation un peu nauséeuse, un peu avoir mal de mer. Ouais, c'est ce qu'il y a eu quelques retours là-dessus. Ça donne tellement un.
Moi perso, ça m'a vraiment pas dérangé.
Non, moi non plus.
Et pourtant, on passe quand même 3h15 hein, devant le film. Il aurait eu le temps de nous faire chier, hein, le HFR. Mais après, il y a des gens qui sont complètement anti cette technologie-là. Malheureusement, pour eux, c'est une technologie qui va arriver de plus en plus et qui va être démocratisé à l'image de la 3D. Alors toi, tu penses que la 3D c'est gadget, dis-toi que le HFR, on va le voir partout maintenant.
Non, mais ça me dérange pas, parce qu'aujourd'hui ça apporte vraiment de la beauté dans l'image et dans la beauté de l'enchaînement des images. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Après, c'est
subjectif, hein, c'est vraiment
la 3D, moi je la voudrais.
Typiquement, je pense qu'on a des auditeurs qui seront pas du tout d'accord avec
ça. C'est ça. Après, la 3D, moi je la voudrais plutôt native, tu vois. On n'a pas besoin de lunettes pour avoir une profondeur de champ sur une image, tu vois. Mais ça, c'est techniquement,
c'est compliqué.
On est d'accord. Mais honnêtement, moi, je l'ai vu en 2D et j'en ai quand même pris plein la gueule, quoi, tu vois. Donc, c'est ce truc-là.
Non, après, en point positif, moi, j'ai bien aimé. Contrairement à toi, pour moi, c'est pas une faiblesse. Le traitement de Neytiri, donc la femme de Jake, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors oui, elle est un petit peu plus en retrait.
Worthington, hein, comme Sully.
Oui, mais tu vois, je trouve que Jack est plus faible, entre guillemets, dans le traitement que Neytiri, parce que Jack, au final, en fait, il a un raisonnement un peu très simplé et un peu bête.
C'est pas le père de l'année.
Oui, voilà. En fait, déjà, il fait de ses enfants une escouade militaire, quoi.
Il fait des différences.
Donc, en termes d'éducation, c'est pas ouf.
En tant que papa, faire des différences entre l'aîné et son fils et son cadet, un peu moyen, tu vois. Enfin, il lui fait porter un poil de la culpabilité qui est un peu moyen dans le raisonnement.
Ouais, il y en a beaucoup. Hein,
alors, est-ce que Cameron essaie de nous faire passer un message de personnel qu'il aurait peut-être vécu étant plus jeune je sais pas, parce que c'est quand même c'est une grosse ficelle, quand même.
Je suis pas certain. Non, je suis pas certain, parce que c'est quand même des vecteurs assez communs. Le fait que l'aîné soit responsable des erreurs du plus jeune, du cadet, c'est souvent comme ça. Hein,
ouais.
Malgré tout, ça reste, je pense, des vecteurs communs. Non, je pense pas qu'il y ait un message particulier par rapport à ça. Mais c'est plus, le traitement de Jack est un peu plus faible qu'à l'habituel. Enfin, que ce qu'on a vu dans le premier, où c'était lui le personnage principal. Là, je sais pas si c'est vraiment lui, en fait, le personnage principal du film, tu vois.
Non, et honnêtement, je te dis, je le vois mourir au prochain épisode.
Loak.
Honnêtement, Avatar 3, il fait mourir le personnage de Worthington, je pense, parce qu'il aura...
Ouais, je pense aussi, ou alors peut-être dans le 4, mais je pense qu'en fait, les parents, donc Jake et Neytiri, vont très certainement mourir dans les prochains épisodes pour laisser place aux enfants qui sont donc Kiri et Loak, qui sont, je pense, les personnages principaux. Hein,
Même si, je vais te dire un truc, a priori, donc j'ai vu une déclaration de Cameron là, récemment, là, qui disait qu'il avait quasiment tout bouclé, en fait, les films. C'est pour ça qu'il a pris autant de temps. En pour, fait, éviter, pour éviter ce qu'il appelle l'effet, il l'a dit, hein, il adore cette série-là, mais pour éviter l'effet Stranger Things. Pour éviter d'avoir des personnages qui sont trop vieillissants, ce qui est quelque part un peu con. Parce que c'est quelqu'un qui utilise la CGI et pour autant, il fait jouer un personnage de 14 ans à Sigourney Weaver. Et on voit même pas que c'est Sigourney Weaver dans le truc, quoi. Donc, c'est un peu bizarre.
Ouais, mais je sais pas si t'as remarqué.
C'est surtout pour Spider, je pense, à mon avis.
Ouais, déjà, surtout pour Spider. Et puis, en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais je trouve que le personnage de Kiri, sa motion capture, elle est moins... alors, c'est très léger, mais je la trouve moins propre que Loak ou Neteyam.
Ah oui, c'est vrai, il y a un petit côté garçon. Pas de flou, mais tu vois ce que tu
dis. Il y a un côté Princesse Leia dans Star Wars, tu vois.
Mais ils ont fait du de-aging sur un truc d'effets spéciaux. Ça fait un peu chelou, c'est vrai.
C'est un peu bizarre. En fait, elle a un... Mais en même temps, c'est aussi un peu... ça peut aussi être expliqué par le fait que c'est un enfant né d'un avatar, etc. D'ailleurs, c'est toujours pas expliqué, mais ça sera expliqué dans
le prochain. Oui, comme ça, comme son rapport avec... moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans son personnage, parce que c'est un point positif, elle a un rapport spécial avec Ewa, elle a un rapport spécial avec le peuple de l'eau aussi, mais on sait pas pourquoi. Tu vois, il y a plein de choses qui sont pas expliquées. Alors, est-ce qu'elle serait...
Avec le peuple de l'eau.
Bah, tu sais, elle est en contact avec tous les animaux de la mer, en fait. Elle est...
Moi, je pense qu'elle est juste très proche de Ewa, en fait.
Alors ça c'est pas expliqué.
De manière générale.
L'explication que j'ai, c'est que comment elle s'appelle, donc le personnage de Sigourney Weaver qui s'appelait comment elle s'appelait déjà, j'ai perdu son prénom. C'est pas Jen. Grace, le docteur Grace. Qui a été offert à Ewa. Donc peut-être que comme elle a été récupérée, toi c'est un truc un peu bon. Il y a des trucs très tirés par les cheveux de comment on arrive
Mais c'est très mystique. Ouais. Bah, elle c'est justement le personnage le plus mystique du film, ouais. Hein, parce que justement elle a cette proximité avec Ewa, la nature, et on sait la puissance de Ewa dans
Avatar,
dans l'écosystème Pandora. Ouais.
Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le côté, donc le lien qu'ont les liens des enfants. Moi, je trouve que les enfants apportent vraiment j'avais peur, moi, de cet apport des enfants qui viennent un peu baisser le niveau. Au contraire, moi, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Les deux frères, ils sont complètement différents dans les caractères. Ils ont vraiment ils apportent vraiment quelque chose au récit. Et je trouve que le cadet, cette relation un peu secrète qu'il a au début avec justement les espèces de baleines et l'espèce de paria.
Tout le coup
de paria,
avec,
là,
Payakan.
Voilà, le Payakan qui est le paria. J'aime beaucoup cette relation qu'il y a. Et j'aime beaucoup aussi le côté, la thématique du braconnage qui est mis en avant, où justement, oui. Ils chassent en fait ces baleines là pour récupérer juste une partie de leur cerveau qui va leur servir en fait de traitement pour ne plus vieillir. Et au final, ils jettent la carcasse après. Bon, il y a un gros message écologique, mais je trouve que c'est plutôt intéressant ce bail, on va dire, dans l'histoire.
Ouais, il y a des gens qui se plaignent un peu de ça en disant bon, le message est clair, merci James Cameron.
Ouais, mais c'est pas lourd. Moi, j'ai pas trouvé ça lourd en vrai. Hein.
Non, moi, j'ai trouvé ça intéressant. En fait, c'est, moi, je l'ai compris comment. J'ai lu des échos et j'ai regardé des vidéos de mecs qui faisaient des critiques justement d'Avatar et qui disaient ouais. Alors là, on nous dit que maintenant, le truc du cerveau de la baleine, c'est la mine d'or, ça vaut 80 millions les 10 millilitres, et c'est ce qui fait tourner toute l'entreprise de Pandora. Moi, je ne l'ai pas compris comme ça, je l'ai plus compris comme, en fait, les humains, ils ont colonisé Pandora, mais de manière globale.
Ouais, c'est fait. Hein,
et donc, forcément, quand on l'a vu dans le premier film, ils cherchaient à extraire le minerai l'unobtanium, de la Terre, et il y a très certainement des colonies humaines qui sont faites aux abords de l'eau, et c'est le cas, et qui cherchent à s'approprier les denrées et les richesses que peuvent apporter la mer sur Pandora. Moi, je trouve ça assez cohérent, en fait, au final.
Ouais, il y a plein de choses qui ne sont pas répondues, en fait, mais moi, je l'ai vraiment pris comme... Il y a plein de choses. Ah, ils n'ont pas répondu sur ça, ou on ne sait pas sur ça. Mais en fait, c'est simplement que c'est un premier épisode d'une trilogie, quoi, d'une nouvelle trilogie qui est mise en place, et que bah, il va tout mettre dedans. Là, en fait, moi, je l'ai... pour ça que j'ai un avis. Alors, j'ai échangé avec un collègue qui a détesté le film parce qu'il m'a sorti tous les trucs qu'il n'a pas aimé dedans. Je lui ai dit oui, ok, mais bon, ça, on l'avait déjà un peu dans le premier. C'est un peu les problèmes du premier qu'on retrouve dans le deuxième, qui est que il y a une certaine faiblesse scénaristique qui est pour moi plus ou moins assumée par Cameron. Même si on verra, il y a deux, trois trucs moi, qui m'ont un peu gêné dans l'écriture. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, là, il nous pose un univers. Donc en fait, on est les observateurs de ce nouvel univers qui est mis en place. Et on va en savoir un peu plus après. Parce qu'il a fait une trilogie.
On est en découverte.
C'est ça. Là, on n'a pas le choix, en fait.
Hein. Et je crois que dans le 3, on découvrira encore. Hein, il y aura encore plus ou moins la même mécanique, puisque Cameron a annoncé qu'on découvrirait, on rencontrerait le People of Ashes, le peuple des cendres.
Oui.
Potentiellement Avatar 3, la voie du feu.
C'est ça.
Pourquoi
oui,
pas.
Oui, ça va être ça.
Mais voilà.
Et
une partie sombre du coup du peuple Navi.
Ouais, ben ça va être le 4, hein, je pense, ça va être le côté.
Non, c'est le 3,
c'est dans le 3, hein. Justement. D'accord.
C'est ce qu'il aurait déclaré. Okay. Hein, après.
Et après, moi, dans les trucs que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le climax du film, qui est donc la fameuse scène avec le bateau des braconneurs, où il y a la petite guéguerre qui se met en place, il y a l'intervention du paria là, du pakun là, qui vient pour défoncer. Et ça, j'ai trouvé ça.
Du Tulkun.
Ouais, le Tulkun. Je vais pas y arriver avec les noms. Hein, je vous le dis tout de suite. Je compte sur toi là-dessus.
Ouais, comme d'hab, ouais, on te connaît. Hein.
Ouais. Grosse baleine, voilà. C'est juste que ça que je vais l'appeler tout le long. Mais j'ai trouvé qu'alors même comme je reviens au début, même si elle est moins impactante que les premières scènes du premier, qui est le climax du premier, qui est avec la revanche de la nature où t'as tout le monde qui intervient, c'était ouf dans le premier. Je trouvais que c'était un peu moins fort dans le deuxième parce que on a l'impression qu'ils sont moins nombreux déjà à se rebeller contre les humains. C'est qu'une petite milice qui part affronter ce gros bateau qui braconne les Tulkun. Et j'ai trouvé cette scène quand même malgré tout très cool, vraiment bien. J'ai trouvé que ça t'en prend plein les yeux. Visuellement, c'est assez dingue. Et puis ouais. Voilà. Mais après, tu vois, si on reprend le personnage de Neytiri,
c'est beaucoup moins épique. Hein,
c'est ce que je te dis, c'est beaucoup moins épique. Et quand Neytiri elle intervient, elle fait tout le temps la même scène, c'est-à-dire elle monte sur son machin volant, elle tire une flèche, elle le met en plein cœur du mec qui pilote l'hélicoptère, et boum, l'hélicoptère se crache. Et ça, on l'a vu déjà 50 fois dans le premier, et elle nous refait exactement la même chose. Elle ne sert qu'à ça, en fait, dans le 2. Quoi. C'est ça que je trouve qui est un peu...
Oh non, oh là là. Attends, le mode Berserker, il est cool quand même. Non, je peux pas te laisser
le mode
dire
Berserker,
ça, je suis pas
qu'est-ce que t'appelles le mode Berserker?
Mais à la mort de Neteyam,
oui,
elle passe dans une espèce
là,
de folie,
là, elle est cool, cette scène.
D'hystérie vengeresse.
Ah oui, elle est cool cette scène.
Wow.
Oui, non, là, je te, Saldana, là je te parle de la scène où il y a les hélicoptères qui arrivent sur la
oui,
scène du bateau.
Oui, ben elle le fait au début du film et elle le fait à la fin.
Ah
bon,
oui,
non, okay. Moi ça m'a pas dérangé.
Ça, je vais y venir.
Parce que c'est quoi, eh, mec, c'est 5 secondes dans le
non,
film
mais je sais.
Sur un film de 3 heures.
Oui. Mais pour moi c'est de l'ordre même du clin d'œil, je pense, pourquoi il fait ça. Mais
non, c'est surtout que en fait c'est logique. En vrai, comment tu veux détruire. Enfin, l'oiseau, enfin l'icrane, l'espèce de la banshee, elle va pas venir dégommer le truc, quoi,
bien
tu
sûr.
Vois. Toruk pouvait le faire, mais pas les
ouais, alors, je suis déçu de pas avoir revu Toruk.
Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est la partie Quaritch en mode Avatar qui apprend à dompter un icrane. En fait, Quaritch fait ce que Jake a fait dans le premier. Ouais. Quaritch le fait dans le 2, du coup. Et ça m'a un peu dérangé.
Ah oui. Bah de toute façon, alors bon, vas-y, on va se lancer dans les trucs qui nous ont moins plu parce que là tu me tends la perche. La raison de faire revenir complètement tiré par les cheveux donc du personnage de Stephen Lang, donc Quaritch, il revient en Avatar. On lui a mis dans son cerveau, on lui a implémenté les souvenirs du colonel
avant qu'il parte à la
mort. Son seul leitmotiv pendant tout le film, c'est de faire la peau à Jake Sully, et ce n'est que ça, mais c'est complètement con, enfin faut se le dire, c'est complètement con. Il ne vit que pour ça.
Oui.
Il n'a aucune forme de remise en question. Voilà, un petit peu à la fin, on peut espérer qu'il se remette en question. Mais en fait, pas du tout. Il est débile, son personnage, on peut se le dire. Il est déjà débile dans le premier. Mais là, je trouve que c'est débile fois mille, quoi. Et...
Ah bah c'est le bon méchant américain, quoi.
Ouais, mais c'est pur, ça manque, pur ça manque de finesse, je trouve.
C'est vu et revu. Ah oui, oui clairement.
Et tout ça, clairement. Ça conditionne la motivation, et c'est ça qui m'a un peu gêné, du départ justement de la famille Sully, de se dire... On va partir parce que si on reste là, ils en ont après nous, ils en ont après moi, donc on va partir et on va vous laisser. Ben c'est pas logique, quoi, en fait. Ils avaient carrément la capacité de se défendre en étant là où ils sont, parce qu'ils sont justement en position de force. Et ils le disent à plusieurs reprises que de rechercher les navis dans ces espèces de pierres flottantes là, qui fait que ça brouille complètement le système de navigation, ils sont en supériorité. Et lui, il prend une part du principe, bon, on va se barrer, hein, on se barre, je vous demande pas votre avis, on se casse, on laisse tout ce qu'on avait vu dans le premier, on l'oublie et on va essayer de voir. Alors, je comprends la volonté de Cameron de nous faire découvrir un nouvel univers, mais il aurait pu mieux écrire ce passage de transition, de se dire, on va aller découvrir le peuple de l'eau.
En fait, c'est très mal
c'est
fait.
C'est sabot, quoi.
C'est parce que, non, c'est un peu expliqué sous la forme de, en fait, Jake, il a compris, maintenant qu'il est père de famille, il a compris que, parce que dans le 1, si on avait pris le Jake du 1, ben il serait allé au fight avec les Omaticaya et puis en fait on aurait eu Avatar 1 bis.
Il aurait cherché
à attaquer. Ah ouais. Donc en gros, la volonté de Cameron dans cet épisode, c'est de dire que ok, Jake a évolué et il n'est plus, il ne cherche plus à la violence entre guillemets et résoudre les problèmes par la violence, mais il préfère donc fuir et protéger sa famille. Aller au combat avec ses gosses et risquer leur mort et risquer sa propre mort aussi.
Oui. Mais au final, il finit par reprendre les armes, quoi.
Mais oui, c'est pour ça que c'est débile.
C'est débile. Mais...
Il manque de cohérence scénaristique de fou là-dessus.
Bien on sûr. Peut passer, on peut se dire oui, ok, c'est un prétexte pour se dire ok, on va voir le peuple de l'eau. Mais bon, il aurait pu avoir un petit peu plus de finesse.
Mais surtout que quand il arrive dans le peuple de l'eau, il dit ouais, on vient pour se cacher, vous en faites pas, il y aura pas de problème.
Il y aura pas de problème. Et par contre, il fait venir,
il fait
venir l'hélico du copain, qui est forcément détecté par les gens, et forcément, ils sont repérés et ça fout le bordel. Non, mais sérieux.
Oui, mais en même temps, sa fille était en train de mourir, donc.
Oui. Mais au final, ils n'arrivent pas à la soigner. C'est là où c'est con. Parce qu'en final, l'intervention humaine ne résout pas le problème. Et c'est donc le personnage de Kate Winslet qui arrive à sauver le Kiri, quoi.
Moi, ça ne m'a pas dérangé. Ce mec, dans la vie, des fois, tu fais des choix et tu crois que c'est le bon choix. Et en fait, au final, c'est ce qui t'amène dans la merde alors que tu n'étais pas tant dans la merde que ça.
C'est
quoi.
Ça.
Mais bon, non, ça ne m'a pas trop dérangé.
Bon, et sinon, qu'est-ce que tu as pensé? Parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur le personnage de Spider. Est-ce qu'on parle de Spider?
Ça m'a déçu. En fait, je pense que Spider, je l'ai apprécié sur 80% du film.
On est d'accord qu'il est en surjeu, quand même, l'acteur. Il est en roue libre.
Oui, l'acteur est un peu en surjeu. Je n'ai pas trouvé qu'il jouait si mal
non,
que ça.
Non, mais il est en roue libre.
Ouais, mais après, on lui a demandé aussi. Ah avec James Cameron, c'est un réalisateur. C'est un réalisateur très, très directif et très contrôle fric. Donc, je pense qu'il a joué à la justesse qu'on lui a demandé.
Ouais. Mais il a
Cameron, il a pas dit vas-y,
il est jeune,
fait ta live.
Il est jeune, je crois qu'il a 18 ans au moment du tournage.
Ah oui, il est jeune, il est jeune, mais
ce que je veux dire c'est qu'il
je sais pas
il le fait jouer un rôle alors déjà j'aime pas son design, le côté dreadlocks bon après le côté tatou pour faire genre je suis un avis why not, mais je trouve que le côté dread tout ça
les dreads ils y sont parce qu'il va les enlever. Il va passer en mode Military Cup dans les prochains.
Alors, c'est le futur méchant du film, c'est sûr et certain. Parce que je trouve que on voit qu'il a un regard, c'est écrit avec des grosses lignes, encore une fois. Il a un regard très. Il commence à juger un peu Neytiri. Tu sens que. Je mets une pièce.
Non, il a peur.
Ouais, mais il a peur. Il a peur, mais il la regarde. Il sait que c'est elle. Il montre, il y a un passage où il voit que c'est elle qui a tué son père. Et comme il commence à. Parce qu'on va le dire, en fait, voilà, le spoil, c'est que Spider, en fait, c'est le fils. Du colonel.
Ça m'a fait chier.
Voilà.
Ça m'a fait
chier.
On
l'apprend, c'est juste pour le raccrocher en fait à Quaritch. Bon, on sait toujours pas qui est la mère, donc on l'apprendra peut-être à un moment donné. Moi, je te le dis, je mets une pièce, cette écriture là au couteau là, c'est il va finalement avoir une brouille avec les Navy, il va être partagé, mais il va finir par rejoindre son père dans le 2 ou dans le 3 et c'est lui qui va tuer Neytiri. Je le dis ici. Là, je le mets sur la table, il va finir par la tuer parce que pour moi c'est setup. c'est complètement setup. Il fait le choix à la fin, on le dit. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film. Il fait le choix de sauver son père. Bon, il rejoint quand même malgré tout les Navy parce qu'il est encore partagé. Il assume pas complètement d'avoir sauvé son père, mais on le sait. Il va venir et ça sera l'élément qui va venir être un peu le perturbateur parce qu'il les connaît très bien et il va être un élément qui va se servir pour justement contrer les Navy. Ouais. C'est sûr.
Ouais, c'est un peu l'archétype du vilain petit canard.
C'est sûr.
Qui n'a pas sa place, ni à droite, ni à gauche. Oui.
Et puis c'est le mythe, c'est le mythe de l'enfant sauvage, quoi. Tu vois, c'est écrit avec des patates. Enfin,
c'est un peu le mythe de l'enfant sauvage.
Quand il se fait attraper, qu'il est enfermé, là, il est là, on le voit faire, on le voit crier, on le voit sauter. Alors je comprends qu'il a été complètement déconnecté de la civilisation, mais il a quand même été en contact avec des humains. Tu vois ce que je veux dire? Il a été tout le temps en contact avec des humains, puisque on voyait que les...
Oui, mais il a grandi avec les Navi, d'accord. C'est expliqué au début du film qu'il passe le plus clair de son temps avec les enfants de Jake.
C'est pas très fin, quoi. Voilà, bref. Bon, j'ai pas hyper aimé le personnage. Il m'a pas dérangé. Ça a pas été rédhibitoire non plus, parce que sinon, je dirais pas que j'ai aimé le film.
Le personnage de Spider est une faiblesse du film et ça le sera dans les prochains.
Ouais. Bah, ça va être compliqué à gérer, malheureusement. Je trouve que...
À part s'il nous prend à contre-pied et qu'il en fait quelque chose d'un peu plus intéressant.
C'est possible.
C'est possible. Hein. Il y a encore l'angle des possibles est large encore. Ouais. Hein, mais c'est vrai que moi, j'ai été un peu déçu. En fait, le chemin de Spider est un peu bizarre dans le film. Quand tu prends juste son point de vue à lui et son chemin... C'est très bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, il est il est plus Navi que humain, mais malgré tout, il suffit que Quaritch aille le voir et lui dise « Ouais, ben non, mais t'inquiète, tu collabores pas, juste tu nous accompagnes pour qu'il change d'avis et qu'au final, ben, lui les mène et les guides vers le sanctuaire des Ikran pour qu'ils puissent apprendre à monter les Ikran, les Banshees. Il sert de guide là où dans le 1, Neytiri servait de guide à Jake. C'est lui qui sert de guide à Quaritch.
C'est du lâcher, ça.
C'est
du lâcher. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a ce qui était intéressant en fait, dans le 1, c'est qu'il y avait tout ce côté un peu... Il présentait en tout cas Sully un petit peu comme le messie. Tu sais, c'est le mec qui est le mec neutre, mais qui va être
l'élu.
Voilà.
Bah, c'est Toruk Makto. C'est ça.
En fait, tu comprends pourquoi on sent qu'il a une connexion avec le peuple de la nature. Tu vois ce que je veux dire? On sent qu'il a cette connexion avec tous les animaux de la forêt, avec les monstres volants. Et là, en grosso modo, on chie sur tout le lore et toute la mythologie qui a été mise en place dans le premier pour dire que grosso modo, n'importe quel avatar est capable de monter, d'avoir une monture. Et on oublie le côté sacré, quoi. Et autant, alors, Quaritch, à la limite, on peut comprendre parce qu'il a de la volonté et qu'il chope une monture. Et putain, tous ces acolytes, tous les randoms là, qui sont avec lui, là, où on a l'impression qu'ils sont... les PNJ qui l'accompagnent, où on a l'impression qu'ils sont morts 10 fois et en fait, ils sont pas morts. T'as pas eu cette sensation-là au bout d'un moment, dans la première scène? On a l'impression que Zoé Saldana, Neytiri, elle en déglingue 3-4. Il y en a 2-3 qui sont morts, là, qui sont 6, hein, normalement, je crois, 5 ou 6. Et on retrouve exactement les mêmes dans la scène d'après. Et putain, ils n'étaient pas morts. C'est le premier truc que je me suis dit. Je dis, mais non, mais attends, ils sont morts.
C'est vrai.
Et en fait, non, ils ne sont pas morts.
C'est vrai,
Et ils ont tous cette capacité à monter les bestioles. Et je dis, putain, mais non. Ça casse, je trouve, toute la magie du premier, où il y avait un vrai apprentissage. Il y avait une vraie upgrade de se dire, j'arrive à les monter. Et c'est réglé en un claquement de doigts.
Ça casse, t'as totalement raison.
C'est dommage.
Ça casse clairement ce qu'il a mis en place dans le premier, toute la partie un peu mystique et spirituelle. De Pandora que Jake a appris avec du temps et beaucoup de difficultés faire le lien avec l'Ikran, l'espèce de cheval, etc. Être en connexion avec la nature et tout ça, c'est chier, comme tu le dis, c'est chier dessus. En fait, t'as l'impression que, en gros, c'est pour montrer que Quaritch a fait le même chemin que Jake pour pour arriver à le retrouver, quoi, entre guillemets. Donc, du coup, il y a une espèce de parallélisme un peu bizarre mis en place. Mais tu as totalement raison, ça chie sur ce qui a été mis en place dans le premier et que moi, m'a beaucoup plu. J'ai adoré l'aspect spirituel d'Avatar, tu vois, et c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais après, c'est 3h15 de film, non. Et il n'y a pas que
mais
ça.
Mais non, il n'y a pas
vois.
Que ça. C'est ce qui mais fait que le film, moi, je l'ai bien aimé.
Mais et bout à bout, c'est vrai que.
Je ne me suis pas arrêté, merde. Mais quand tu prends du recul un minimum et que tu analyses un peu plus le film, il y a 2-3 trucs qui ne vont pas. En fait, on a la sensation que. Alors après, c'était une volonté de Cameron, si on essaie de voir le truc un peu positif, de dire bah, on annule complètement tout ce qu'on a vu dans le premier parce qu'on va voir un nouveau peuple, et du coup, on oublie le peuple des Navi et compagnie, et on se concentre sur ce nouveau peuple de l'eau. Donc du coup, bah, qui dit ça, bah, dit que grosso modo, les méchants, ils peuvent aussi dompter plus facilement toutes les montures et compagnie du peuple Navi. Mais non, ça va pas, quoi. Ça marche pas, quoi. Enfin, ça marche pas.
Ça va pas. Ça va pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ouais. Et même la fin, un peu déçu aussi en fait, de l'interaction avec le peuple de l'eau.
Ouais, il y en a quasiment pas.
Qui est au final. Finalement, elle est c'est très réduit.
Ouais, alors est-ce qu'il en garde sous le pied pour le 2, c'est ce que je me suis dit.
Non, non, non.
C'est dommage.
Non, je pense pas,
parce que Kate Winslet, on la voit quasiment pas.
Par contre, en fait, il en garde pour le 4, parce qu'en gros, Avatar 2 et Avatar 4 ont été tournés en même temps. Et donc, Kate Winslet est créditée dans le 2 et le 4.
Ah,
donc, elle sera peut-être pas dans le 3.
D'accord.
Mais elle reviendra dans le 4.
Mais je pense que clairement, c'est un film qu'il faudra revoir dans son ensemble, avec 2, 3, 4. Autant le premier, je pense qu'il est vraiment à part, parce qu'il se conclut et c'est un film complet dans son ensemble. Autant la trilogie qu'il va nous proposer, la 2, 3, 4, il faudra, une fois que tout sera terminé... 5. Mais t'es sûr qu'il y a un 5? Moi, j'ai pas vu qu'il y avait un 5. Hein.
Ouais, certain. Ah ouais, okay. Certain.
Bah, il faudra voir en fait tous ces films-là dans l'ensemble, parce que, je pense qu'il va interconnecter les épisodes et faire que tout se relie au final, quoi. Et que toutes les réponses qu'on n'a pas eues dans le premier, on les aura dans le deuxième, ou dans le troisième, quatrième, etc. Enfin, genre... moi, j'ai une petite question à te poser. Qu'est-ce que t'as pensé de l'élément, on va dire, tragique, un peu, dans la famille Sully? T'as aimé, t'as pas aimé? Qu'est-ce que t'en as pensé de cette conclusion sur l'aîné de la famille?
La mort de Neteyam. Mais en fait, quand j'ai vu la relation qu'il y avait entre Loak et Neteyam, donc l'aîné et le cadet, Neteyam étant l'aîné et Loak le cadet, j'ai compris très vite qu'il allait mourir.
Ah, t'avais compris, toi? Ok.
Ouais. Bah ouais, mec.
Non, alors moi, honnêtement, j'avais mis une pièce sur honnêtement, hein, dans ce film-là, je me dis, le film ne peut pas se terminer sans qu'il y ait un côté tragique. Et honnêtement, j'avais mis une pièce soit sur Jake Sully ou soit sur Neytiri. Un des deux. Je croyais qu'il y avait un des parents qui allait y passer. Moi, je pensais pas qu'il allait avoir un des enfants.
Non. Neteyam, je le voyais mourir. Tu sais pourquoi? Alors, c'est peut-être un peu philosophique ce que je vais dire. Mais en fait, tout le film, déjà, Neteyam, il ramasse pour Loak. Et en fait, tout le film se concentre sur plus sur Loak, les conneries que fait Loak,
entre guillemets,
les décisions que prend Loak, ouais. Oui, entre guillemets. Non, mais il en fait des conneries.
Il en fait. La première, mais elles sont bonnes.
La première scène qu'on voit de Loak, c'est Loak qui dit à son frère, ouais, viens, on va chercher les armes. Non, Neteyam qui dit non, papa, il va pas vouloir, il va nous déchirer. Ouais, t'es une poule mouillée, la classique, tu sais, t'es une poule mouillée. Ils se font engueuler. Neteyam, il prend cher. Ouais, voilà. Et en fait, j'ai compris très vite, parce que c'est du déjà vu, qu'il allait sûrement y passer.
Ouais, mais toi, je l'ai...
Parce qu'en fait, il se fait écraser par son frère. Tu vois, typiquement, un autre indice.
Ce que tu veux dire, c'est que pour exister, lui, si Loak veut exister, il faut que il ait plus son frère. Donc c'était le raisonnement.
En tout cas, dans le film.
Raisonnement. Dans le raisonnement, je comprends ce que tu dis.
Ouais, parce que si tu regardes, quand il arrive au peuple de l'eau, le seul personnage qui a un love interest, c'est Loak.
C'est vrai.
C'est pas Neteyam. Neteyam, on s'intéresse pas à lui, en fait.
Non,
on s'intéresse à lui par Loak.
Il est présent chez les Navi, mais il est complètement transparent et il disparaît complètement de l'histoire une fois qu'on est dans le peuple de l'eau. Quoi. Il a quasiment plus de scène après, quoi.
Clairement, il en a très peu, et toutes les scènes qu'il a, c'est pour aller chercher son frère, ou pour attraper les conneries de son frère, ou voilà. Toujours, c'est toujours en rapport à Loak, parce que Loak va être le... Et Jake, en fait, plus jeune, quoi. C'est lui, hein, Jake Sully, il faisait de la merde quand il a commencé à être un avatar, il faisait des conneries, machin. C'est Loak, quoi, l'adolescent un peu dissident, en crise d'ado, mais quand même très... franchement bon.
Alors, il sera plus important dans les suites. Je pense que le futur Messie ou le futur élu des suites, ça sera Kiri. Ça sera le personnage de Sigourney Weaver.
Non, ça va être un duo.
Tu penses que ce sera un duo, toi ? Ok. Bon, ben, c'est intéressant.
Oui, ça sera un duo. C'est Loak et Kiri, 100%. Loak étant la partie. En fait, c'est comme Jack et Neytiri, tu vois. Voilà. C'est un duo. Loak étant la partie un peu plus guerrier, militaire. Et Kiri, la caution spirituelle.
Ok.
Voilà.
Bon. Est-ce que tu as autre chose ?
Parce que si tu regardes, ouais. Loak n'a, mis à part son lien avec le Tulkun, mais il n'a quasiment pas de scène spirituelle ou quoi que ce soit. Quoi. C'est très, 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 très faible.
Ouais.
Là où Kiri a quasiment que ça.
Ouais, bah c'est très dans le. Ouais, c'est ésotérique, on va dire. On sent que c'est très.
Ouais.
Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle est très dans le spirituel, dans le ressenti. Elle est très dans le sensitif. Ouais. On la voit, elle est sous l'eau, en train de regarder, de s'émerveiller de ce qu'elle voit. D'ailleurs, peut-être le moment d'en parler. Vous avez tous vu l'info, mais en fait, il y a eu un record qui a été établi par l'actrice Sigourney Weaver, parce qu'en fait, la performance qu'on voit, ils sont vraiment sous l'eau. Après, il y a un relifting qui fait qu'ils sont en avatar et il y a une retouche des effets spéciaux qui fait qu'on les voit comme ça. Mais elle est vraiment sous l'eau, en train de faire sa scène. Et elle a fait un record en termes d'apnée. Je crois qu'elle est restée, il me semble, je crois que plus de 6 minutes sous l'eau. 6 minutes 30 sous l'eau en apnée, Sigourney Weaver. Et elle a du coup... elle a battu le record de Tom Cruise. C'était détenu avant par Tom Cruise. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a des...
Tu parles d'un record pour un profane.
Oui, tout à fait. On parle d'un film, on parle dans l'univers cinématographique, compagnie. Je pense que les professionnels, aujourd'hui, il y en a qui peuvent tenir...
J'avais pas vu passer l'info, mais longtemps. Ouais.
Je crois que c'est ça. Il me semble avoir vu passer, justement, qu'elle avait tenu plus de 6 minutes sous l'eau, justement, pour les besoins du film. Et que je crois que Kate Winslet avait failli se noyer pendant le film. J'ai vu une info passer comme ça, oui. ce qui est drôle. Parce qu'on peut terminer par ça, si tu veux, parce que je pense qu'on a fait le tour. Bon, il y a Kate Winslet, mais il y a quand même une grosse ref à Titanic, puisqu'il y a un moment donné, il y a le bateau qui coule. Et on voit les deux acteurs en train de remonter. Donc, c'est l'acteur qui joue Spider et du coup Kiri, qui sont en train de remonter le bateau et qui est le bateau qui est en train de se pencher, en train de plier. J'ai vu le Titanic, quoi. Je me dis. Il y a Céline Dion qui va débarquer
et qui va gueuler
va gueuler My Heart Will Go On, quoi.
Non, ouais. Mais il a fait des grosses refs à ses œuvres, Titanic, Abyss.
Mais on les attendait. Le mec, il fait un truc sur l'eau. C'est un passionné de l'eau. Il est matrixé par l'eau. C'est pour ça qu'il a fait un film sur l'eau. Et c'était évident qu'on allait avoir une ref à Abyss, une ref à Titanic. Je l'attendais, en fait. Je me dis, quand est-ce qu'elle va avoir lieu ? Bah putain, ça y est, le bateau, il coule. Bon,
je crois qu'il y a une ref à Terminator aussi.
Ok. Pourquoi il y a un personnage qui dit I'll be back? Non, c'est pas ça.
Non, mais je regardais le youtubeur Captain Popcorn qui faisait sa critique et il expliquait qu'à un moment donné, il y a une scène où, tu sais, quand les humains débarquent, tu sais, quand les vaisseaux se posent, tout crame et que t'as une escouade de gros robots qui sortent.
Elle est impressionnante, cette scène, on en a pas parlé. Elle est impressionnante
visuellement. Je sais pas si c'est pas une ref.
Ouais.
Je sais pas si c'est pas une ref à soit à Terminator, soit à merde, comment il s'appelle ce film là, un des films de Cameron,
il en a pas fait 50 à Cameron.
Non, ben oui, mais je crois que c'est Terminator, apparemment, dans le plan, etc. Ça y ressemblait apparemment. Moi j'ai jamais vu donc Terminator, malheureusement.
T'as jamais vu aucun Terminator?
Non.
Ah, vraiment aucun? Ni le 1 ni le 2? Okay. T'es sérieux? T'es passé à côté de ça?
Ouais.
Merde.
Non, mais je le ferai. Hein. Je pense que 2023, c'est prévu que je mate les Terminators. Ah, en fait, j'ai commencé à regarder le 1 l'année dernière.
Tu gardais ça pour le podcast, en fait.
Je suis tombé dessus sur Ciné+, Canal+, Cinéma ou je sais pas quoi. Là.
Merde.
Je me suis dit, oh, peut-être Terminator. Mais j'ai pas eu la foi d'aller
T'as gardé ça pour le podcast, en fait. Tu t'es dit, on va en parler un jour de Terminator, quoi. Hein.
Pourquoi pas, ouais. Mais mec, ça a pris un coup de vieux. Moi, découvrir Terminator en 2023, je te cache pas que j'ai des appréhensions.
Ça a pris un coup de vieux, mais c'était de la bonne CGI à l'époque. C'était des effets un peu en dur, et ce qui fait que je trouve que
c'est pour ça qu'il faut que je sois prêt mentalement.
Mais la patine du temps, elle est bien. Elle est bien. Tu vois, je trouve qu'il y a des aujourd'hui, il y a des films des années 2000 qui étaient on était au tout début des effets spéciaux, on va dire numériques, qui justement ont beaucoup plus mal vieilli que certains effets spéciaux des années 80-90. On sent qu'il y a la patine de l'âge, on voit que c'est un film daté, mais en termes de visuel, c'est super chouette, quoi, parce que c'est de l'effet en dur, et Terminator, c'est ça aussi, quoi. C'est des vrais bons films, oui, qui n'ont, oui, pas trop mal vieilli. Moi, je les revois régulièrement, et je trouve que c'est... Mais c'est le vieux con de 37 ans qui
ça,
parle.
Ça reste subjectif, ouais. Ça a vieilli, c'est sûr et certain. Bien ou pas, ça dépend des gens.
Et bon, est-ce que t'attends la suite, du coup? T'attends la suite aussi, je suppose? On va
conclure
là-dessus.
Oui, avec impatience. Ouais. Ouais. J'attends le jeu vidéo, parce qu'apparemment, il y a un gros jeu vidéo qui va sortir Avatar.
Tu l'avais fait, l'autre jeu vidéo?
Ouais. Ouais. Okay. Ouais, mec, il était nul.
Il était nul à chier.
Ah, c'était de la merde. Tu pouvais jouer soit un humain, soit un avis. Ouais. Après, par contre, le jeu était très riche en lore, ouais, Avatar.
Parce qu'il était dur.
Parce que Cameron avait mis sa
main. Ah, ouais, mais
dedans.
Il était dur.
Mais le jeu
était horrible.
Ouais, le jeu était
nul. Non, mais j'avais essayé de le prendre. Tu te fais mais défoncer alors que t'es en niveau de difficulté pas trop élevé. Ah, moi j'avais.
C'était un semi-open world un peu bizarre.
Ouais, troisième personne, tout ça. Mais ouais.
Et forcément, t'as pas du tout envie de jouer à un humain, quoi. Enfin, nul,
mais tu peux jouer. Tu peux jouer un avatar, mais tu te fais ton avatar à toi.
Oui, tu peux jouer un avatar, mais t'as les deux gameplays.
C'est ça,
en fait.
Mais qui intervient, en side de l'histoire principale. J'ai toujours détesté ces trucs-là où on joue pas vraiment le héros, oui, du film, on joue un mec à côté qui fait des missions en parallèle de l'histoire principale et qui de temps en temps, ouais, croise les personnages. Je déteste ces scénarios.
Mais je pense qu'il va y avoir un jeu vidéo, tu vois, qui va être assez cool. Et bien sûr, hâte d'avoir la suite. J'ai pas envie de spin-off série ou quoi. En fait, je veux que ça... Mais ça n'arrivera pas, non, je pense. Ouais, je veux que ça reste très bien produit.
Tu l'as dit, hein, il est très contre le fric, hein, Cameron. Donc, il va faire en sorte que, voilà, bah, ça soit ses films et rien d'autre. Et il est en train de créer un peu son lore à lui. Hein. Il crée son univers qui est propre, ah, à bon, lui. Et j'espère qu'en tout cas, ouais.
Je vous invite à regarder, je ne sais pas si... moi, je consomme beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube. Je vous invite à regarder la chaîne YouTube Tales from the Click, pour ceux qui connaissent. JB Toussaint, Jean-Baptiste Toussaint, je crois qu'il s'appelle, qui fait des... clic droit sur des acteurs, etc. Et en gros, en fait, il présente un peu la vie, mais de manière brève et très intéressante d'acteurs, réalisateurs et tout. Il en a fait un pour James Cameron pour la sortie d'Avatar. C'est très très intéressant. Genre par exemple, il dit un truc qui est très, il explique un truc qui est très cool. C'est Cameron, c'est le seul réalisateur à être consultant pour la NASA, mec. Voilà. C'est-à-dire que là, genre, il est, okay, consultant officiel. Pour la NASA, ben moi non plus, mec. Pour te dire à quel point c'est un baiser, ce type. Hein,
mais c'est vrai qu'il y a un côté, il y a un côté dans toute la partie vaisseau spatial quand tu les vois. Alors on sait qu'on a aujourd'hui, on n'a pas la technologie, mais il y a un côté très réaliste. Tu sais, dans les vaisseaux, tu sais, quand tu vois les vaisseaux arriver sur la Terre, sur la manière de se poser et compagnie.
Tu te dis, putain, ça pourrait
exister, quoi, tu vois. Même si c'est très loin.
Il est ingénieur, enfin, il est trop fort, mec.
Mais Cameron, de toute façon, ça a toujours été avant tout un technicien, c'est un technicien du cinéma plus qu'un réalisateur. Alors, il fait des super films, hein,
mais
c'est quelqu'un qui est connu pour son côté très technique et il apporte vraiment le côté un peu presque limite scientifique de certaines choses. Et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Tout n'est pas parfait, mais j'aime beaucoup son œuvre.
Ouais, moi j'aime. Bah, c'est surtout que, mec, voilà, c'est le boss de fin du cinéma, quoi. Le type, il sort un film. Et là, il va dépasser son propre record de box-office, quoi.
Alors après, ils annoncent pour que le film soit rentable, c'est 2 milliards, hein, de recettes, hein, quand même. Hein. Donc, tu penses qu'il va les faire tous les jours.
Mais tous les jours.
Mais c'est vrai qu'il a cassé le game. Hein. Honnêtement, moi je me disais.
Les séances, c'est complet depuis la sortie. Ouais. Ça fait 3 semaines que ça joue à guichet fermé, mec.
Tu sais, moi, dans ma voix, je me dis, il y a quand même. Je me dis, d'avoir une masse de la population qui n'a rien à foutre, tu vois, qui n'attend pas Avatar. Et en fait. Globalement, on n'a pas eu trop de com, en fait, sur Avatar. Il y a eu, bah, tu vois, on n'a pas été inondé de communication. Le mec, il sort son film, il casse le game. Qu'on aime le film ou qu'on déteste le film, hein, mais il casse le game du cinéma, il a tout explosé. D'ailleurs, c'est pour même dire une chose, c'est que je discutais avec le responsable du cinéma de chez moi. On discutait de ça, il me dit, c'est pauvre, les sorties cinéma, au moment où Avatar sort. Il n'y a rien. Il y a quelques trucs, tu vois, il y a eu le chapeauté, il y a eu le chapeauté 2 et compagnie, parce qu'ils ont peur de se mettre en face. T'as aucun.
Mais personne ne veut se mettre en face d'Avatar.
Personne.
Et dans 2 ans, c'est la même.
Tu sais qu'il avait décalé à l'époque, il y avait un projet de sortie aux alentours, je crois que c'était 2016 ou 2017, Avatar était prévu le 2, normalement il était prévu de sortir en face Star Wars 8. Et du coup, oui. Il a décalé la sortie du coup, pour plus peaufiner son film et se dire « j'ai pas envie de me retrouver en face de Star Wars, que je peux me prendre une claque ». Mais en vrai, il a été ultra bon. Hein. Il a dû se marrer quand il a vu tout ce que le torrent de merde qu'a dû prendre le 8. Et de le sortir maintenant, je pense maintenant que c'est plutôt l'effet inverse, que Star Wars n'osera pas sortir en face, de, sortir en face d'Avatar.
C'est une franchise. C'est certain. Parce que... Personne ne veut. Et là, le problème, c'est que bah, le cinéma, il se retrouve baisé parce que vu qu'il a tourné beaucoup de choses d'un coup, le 3 est censé sortir dans 2 ans. Donc en 2024,
ouais.
Fin 2024, ouais. Et tous les 2 ans, du coup.
C'est ça. Bon, on en a jusqu'en 2028.
C'est... Ouais. Ça fait un peu peur.
Ouais. Mais alors, le gros point fort dans cette histoire-là, c'est qu'il a tourné déjà une bonne partie de tout ce qu'il devait tourner, donc on va avoir ce côté âge des acteurs qui sera bien préservé. Mais il n'est pas vieux, hein, Cameron, hein. Il a encore, je pense qu'il...
Non, mais c'est plus le scénario, moi, qui me fait un peu peur.
Ouais. Tiens, bon. Cameron, je regardais, il est de 54, il a 68 ans, Cameron.
Tu vois, ça meurt dans l'œuf, quoi.
Ah,
en gros,
c'est risqué, quand même.
Ça ne suffit. En fait, attendre 10 ans et sortir un truc avec une nouvelle techno et tout, et beaucoup de choses qui évoluent bien, ça fonctionne. Mais tous les 2 ans, si le scénario est pauvre, en fait, habituer les gens à bouffer. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des attentes qui vont être. Pas vraiment comblé parce qu'ils vont se dire ouais, non, mais c'est bon quoi. En fait, ça, on l'a
déjà vu.
Merde.
Je pense que les fans ou même les gens qui ont été voir le film laisseront peut-être sa chance aux 3 de résoudre les problèmes qu'on a évoqués justement du 2 qui vont pas. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas en termes de cohérence scénaristique et compagnie. Il y a des choses où c'est pas logique, tu vois. Je pense à une scène qu'on m'a fait remettre en tête et j'ai beau y réfléchir et j'ai pas la réponse. Au moment où justement le fils donc de Sully meurt, il a un appel de Quaritch qui lui dit alors, ça fait quoi de perdre son fils? Mais comment il sait que son fils est mort? À aucun moment, il a l'info en fait. Et j'ai beau réfléchir, j'ai beau essayer de me repasser la scène, et je me dis...
C'est pas lui qui tire?
Bah ouais, mais il était pas mort. Ou alors il sait qu'en lui tirant dessus, c'est qu'il a fait un tir mortel. Ça paraît gros quand même.
S'il lui a tiré en plein dans le poitrail...
Il peut supposer mais ça fait gros dans la manière dont c'est amené, encore une fois, tu sais, dans le côté écriture, ouais, c'est un peu gros. Mais voilà, donc il faut espérer en tout cas que Cameron arrive à régler un peu ça. Mais dans l'ensemble, voilà. Alors, on a passé un peu plus de temps, je pense, sur le côté des côtés un peu négatifs, mais globalement, c'est un film qu'on a aimé.
Parce qu'il y en a et qu'on a du recul. Oui. Je pense qu'on enregistre cet épisode à la sortie de la séance.
On est à chaud. Hein.
On est juste émerveillé, quoi. À chaud, on est émerveillé. Et avec un peu de recul, avec les nuits qui passent, forcément. Et puis aussi, on n'a pas que notre propre avis. C'est aussi, moi, c'est ça que j'aime faire quand je regarde un film. J'aime bien prendre des avis d'un peu à droite, à gauche, voir ce que les gens ont relevé, que moi, je n'ai pas relevé. Et voir si c'est intéressant ce qu'ils disent ou pas. Hein, me faire mon propre opinion en fonction de ce que disent les autres personnes.
C'est ça.
Donc voilà. Mais je n'oublie pas, le sentiment que j'ai eu quand je suis sorti du ciné.
Qui est positif.
Et qui
reste positif.
Moi, à un moment donné, j'avais l'alarme à l'œil.
Aussi.
J'avais les poils levés.
Les frissons, tout ça.
Et ça, tu peux pas me l'enlever, quoi.
Non. Il y a eu un plaisir de séance avec du recul quand tu repenses à certains trucs. Tu dis, c'est gros ou c'est mal écrit ou ça y va avec ses gros sabots, tout ce que tu veux. Mais dans la globalité, moi, j'ai trouvé que c'était un truc cool et que je pense que je prendrais plaisir à revoir. Voilà. Mais il y a quand même des trucs qui ne fonctionnent pas. Mais ça, c'est. Ça serait un chef-d'œuvre. Et ça n'est pas un chef-d'œuvre. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Mais il y a plein de choses qui prennent le dessus sur les côtés négatifs. Et il y a aussi des trucs que tu aimes tellement le lore d'une histoire ou d'un film que tu es prêt à fermer les yeux sur 2-3 trucs. Tu vois, moi, je suis un peu comme ça. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, je suis assez aussi pareil. Je suis assez facile en termes de clients.
Je suis un bon public,
moi. Donc, si tu veux, il y a un moment donné, il y a des trucs, oui, bon, ok, on sait que c'est gros, on sait que c'est cheaté, on sait que ça tient pas la route. On s'en fout, on est là pour prendre du plaisir, en prendre plein les yeux. Voilà. Donc, mais globalement, ça reste une séance vraiment très cool. Et puis, dites-nous dans les commentaires ou sur le Discord ce que vous avez pensé d'Avatar 2. venant parler sur notre channel, puisqu'on a renommé, on peut le dire, le channel du Discord en Seb et Val Podcast, puisque du coup, maintenant, on va relancer ce podcast-là et on communiquera sur « Et y a-t-il un pilote dans le manga ?» et sur Waiting Room, sur le même channel, pour que vous puissiez discuter avec nous et nous donner un peu vos avis à chaud de ce qu'on pourra parler dans ce nouveau format. On a fait le tour, mon petit Val. Je pense qu'on peut conclure.
On a fait le tour. Beau premier épisode.
Ouais, j'espère que ça vous plaira. J'espère qu'on n'a pas trop dit de conneries. J'espère que ça c'est audible. On va essayer un petit peu de faire un petit montage un peu sympa en vous mettant la bande annonce, en essayant peut-être de faire passer en arrière-plan le thème du film. Vous savez, on doit avoir le score d'Avatar qu'on mettra peut-être en fond pour rendre le truc un peu sympa à écouter. Et puis on va essayer de vous préparer tout ça. Et puis on a bien sûr, on n'a pas le prochain sujet, hein, puisque comme vous l'a dit, c'est
au freestyle.
Et puis n'hésitez pas à aller venir nous follow sur si c'est pas encore fait, donc on aura le Twitter waiting.
On n'a pas dit le rythme, mais on a dit que ce serait
une fois par mois, une fois tous les deux mois. On se met pas de pression, si tu veux, si ça te va.
Pas de pression.
Mais on va essayer de se faire une fois par mois, mais si c'est une fois tous les deux mois, c'est une fois tous les deux mois. Mais l'idée, c'est notre petite soupape à la cool, où on parle de pop culture, on se fait plaisir et puis voilà. Ouais. Je veux dire, forcément, là, en fin d'année, je crois qu'il y a la fin de Stranger Things qui sort, on parlera de Stranger Things dans le podcast. Ce sera l'occasion de parler de Stranger Things. J'étais tellement frustré de ne pas pouvoir parler de la saison 4. Avec cette Grave. Nouvelle saison-là, on pourra un petit peu lâcher un peu les chevaux et puis se faire plaisir. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas nous donner vos retours sur ce premier épisode, si ça vous a plu, si cette nouvelle formule vous plaît, à venir nous follow du coup sur les réseaux de Waiting Room, donc sur Twitter, Instagram, venir sur le Discord. De toute façon, on vous met tout ça dans la description du podcast. Et puis on vous dit à bientôt. Salut mon petit Val.
Salut à tous, à très vite.
Ciao tout le monde.
Les gens viennent dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
Bat pas merde, Rocky, bat toi!
Tu n'es absolument pas malade.
Ça me va droit au cœur, mais tu es bien placé pour savoir que, au contraire, je suis un grand malade.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.